Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David.
Très heureux de vous retrouver après une semaine d'absence dans Les Vraies Voix avec ce soir un trio. Ah, tiens, j'ai envie de faire une métaphore footballistique. Encore. Les Platini, Giresti, Ghana.
Pas mal.
C'est pas mal.
C'est pas mal.
Ou si vous voulez, vous voulez une métaphore rugbystique.
Ouais.
Allez, on va prendre quelle équipe la finaliste 87.
87,
Blanco,
soyez sympa.
C'est là, la Gisquet. Ça vous va?
C'est là, bien. Blanco, bien
c'est
sûr.
Là, c'est pas mal.
Blanco,
mais pourquoi
c'est pas mal
vous
aussi.
Faites des métaphores sportives toujours?
Parce que vous êtes tous de grands sportifs, les vraies voix, c'est sportif.
C'est pas faux, c'est pas faux.
C'est musclé, c'est musclé.
Mais j'attends des métaphores culturelles, mon cher Philippe.
C'est ça le problème.
Mais écoutez, je vais vous en faire.
Ça va être compliqué, rapport à ce qu'on dit sur toi, là.
Oui, mais.
Alors,
n'oubliez pas
que
vous succédez à Brindel. Hein.
Oui. Alors, je vais vous faire de la métaphore culturelle. C'est le Albert Einstein des vraies voix, vu son intelligence supérieure. Il est par ailleurs président de l'Institut de la Parole, auteur du livre Libre propos d'un inclassable, publié à la Nouvelle Librairie. Bonsoir, Philippe Bilger.
Albert,
ça vous va
Einstein.
Bonsoir.
Vous
trouvez en matière.
C'est la seule personne qui peut vous parler en intelligence. Hein.
Mais vous trouvez en matière culturelle la seule chose où je sois totalement incompétent, Einstein.
C'est très honnête.
Bon, alors là, je vous comparais à du très lourd. La Marie Curie des vraies voix.
Oh, j'adore. Oh.
Deux prix Nobel, quand même.
Deux prix Nobel exceptionnels.
Elle irradie, de talent.
Elle irradie de talent. Elle est excellente.
Même Jean Doride aussi, mais. Non, mais ça y est, c'est fini.
Elle est très bonne. Mais vous
pourrissez tout ce qui vous approche en termes de Black Buzzers. Je vous le dis.
Je n'ai inspiré personne.
Jean Doride, il était normal quand il a commencé les vraies voix. Il était équilibré. C'était un type. Non, moi, j'étais complètement déglingué comme vous. Lui, c'était un type mesuré, cadré. Bref, un psychologue. Absolument.
C'est
regarde
vrai,
ce qu'il est devenu à ton contact.
Alors, éditorialiste Sud Radio LCI, auteur de L'homme qui n'avait pas d'amis, publié chez Plon, qui est désormais troisième meilleure vente chez Amazon.
C'est
je crois,
ça, oui, on a
pour
pas
les
droit
livres
de
politiques.
Dire. Ouais, je suis très contente, vraiment incroyable. Voilà, ça me fait très plaisir. Voilà.
Eh bien, écoutez, félicitations.
Merci.
Et un docteur en psychologie, c'est le Sigmund Freud des vraies voix.
Ah, bah oui, l'homme qui a tout
inventé. Il est à la psychologie ce que Freud est à la psychanalyse. Jean Dorido, docteur en psychologie et créateur de l'application Zenfi et être zen avec des vraies voix. Comme Françoise Degout et Philippe Bilger relèvent de l'exploit.
Pourquoi tu le mets dans le même paquet
si
que moi il est,
bah, parce que vous êtes fait du même bois.
Non, mais il est équilibré, Philippe Bilger. Ah bon, enfin, je veux dire, il est pondéré.
Il est dans la pensée complexe.
Moi, je suis une brute épaisse de gauche, tu sais très bien.
Avec le couteau entre les dents.
Ma chère Françoise.
Je mange des enfants comme Mélenchon, moi. Pardon.
Vous êtes seulement socialiste.
Ah, je te remercie vraiment, je vous remercie.
On
non,
en
mais
a
vraiment,
beaucoup.
Philippe Bilger.
On en prend soin. Parce qu'on en a voilà.
C'est le seulement qui est le plus important dans sa phrase.
Je vous signale que vous avez vu, il y a une cage autour de moi. C'est pour protéger la biodiversité, je pense. Si vous pouvez arrêter les cacahuètes. Vous pouvez arrêter les cacahuètes, Jean Dorido, merci.
Ah non, ça. Là, moi, je les lui laisse. J'ai horreur de ça, les cacahuètes. Là, franchement.
Non, vous avez compris, les cacahuètes, la
ah,
cage.
Oui, pardon,
parce qu'on donne.
Ah, oui,
non, mais vous êtes lent, en fait.
Oui, j'ai le cerveau lent.
Et je note que vos références culturelles, il n'y a pas un bouquin, il n'y a pas un philosophe, il n'y a rien.
Mercredi, vous revenez, je vous présenterai comme de grands auteurs.
Le,
ça
temps,
vous va
le temps que tu bosses Wikipédia.
Le menu des vraies voix. À 17h30, un sujet lourd. Guerre en Ukraine, faut-il aller plus loin dans les sanctions? À 18h30, hausse record de la taxe foncière, est-ce le prix à payer pour la suppression de la taxe d'habitation? Vous voulez réagir, le 0826-300-300 et les réseaux sociaux, je vous sens dans une forme olympique.
On est à fond.
Eh bien écoutez, vous voulez le rolling?
Bah grave.
Et bien c'est parti.
Sud Radio Parlons Vrai, présidentielle 2022.
Alors, pour cause d'égalité parfaite, je vais donner tous les scores et toutes les évolutions. En tête, Emmanuel Macron, 27,5%, il perd un demi-point. En seconde position, Marine Le Pen, 22%, elle gagne un demi-point. En troisième position, Jean-Luc Mélenchon, 15,5%, il gagne un demi-point. En quatrième position, ex aequo, Valérie Pécresse qui gagne un demi-point à 10% et Éric Zemmour qui est à 10% mais en perdant un point. Loin derrière, Yannick Jadot, 4,5% stable, Fabien Roussel, 3% moins 1,5%. juste après ces trois candidats à 2%. Anne Hidalgo, 2%, plus 0,5. Jean Lassalle, 2 et à égalité avec vendredi. Nicolas Dupont-Aignan, 2 à égalité avec vendredi. Ensuite, pour clôturer la marche, Philippe Poutou, 1% stable et Nathalie Arthaud, 0,5% stable. Alors, les vraies voix, vous connaissez les règles maintenant. Ceux qui montent, comment expliquez-vous leur montée ? Alors, il y a dans ceux qui montent Marine Le Pen, il y a Jean-Luc Mélenchon et Valérie Pécresse. Philippe Bilger.
Je suis un peu lassé de devoir dire à chaque fois que Françoise et moi, on avait tout prévu. Certes, on est un couple performant, mais tout de même, à la longue, ça devient un peu répétitif.
J'aurais dû vous appeler Pierre Curie, ça aurait vraiment fait un couple
non,
de parfait.
Non, alors, Philippe, est-ce qu'on peut citer les noms ou pas du tout ?
Alors,
c'est très compliqué.
On va pas citer les noms. Ceux qui montent, c'est idiot, mais d'accord. Il faut faire avec. Quelle est votre analyse ? Il va rester 3 semaines comme ça va être parfait.
Alors, pour
le deuxième tour, vous avez raison. Il reste 4 jours encore.
En ce qui concerne le président candidat, la baisse qui a commencé il y a quelques jours se poursuit. En ce qui concerne la candidate qui
fut finaliste la dernière fois, on va dire ça
voilà,
comme ça.
Eh bien, elle continue à monter, à grignoter. Elle n'est plus, si j'ai bien saisi, qu'à 5 points du président candidat.
5 et demi.
Et en ce qui concerne la candidate républicaine, vous me comprendrez, je suis heureux de constater que elle a gagné 0,5 point parce que de fait, le discours qu'elle a fait hier au parc des expositions, je parle techniquement, était incomparablement meilleur qu'au Zénith. Et donc, ça montre qu'une forme de compétence de travail paye. Et pour le reste, les choses ne changent pas radicalement. Mais et le second tour, si les estimations ont du sens, ce dont je doutais la dernière fois, montre également un rapprochement très net entre les deux prétendus qualifiés.
Françoise Degoy, qui avait l'appel d'un de ses fans.
Ouais, je pense que nous sommes dans la dernière semaine, voilà.
Ça, et on sera tous d'accord là-dessus.
C'est juste, Françoise.
Cette dernière semaine va forcément nous réserver beaucoup de surprises. Il y a le rolling, donc tous les jours la course des petits chevaux, et puis il y a la réalité des urnes qui ne peut pas se mesurer le jour J, c'est-à-dire le dimanche, c'est-à-dire déjà en plus de ça, les gens se décident de plus en plus tard. Aujourd'hui, il y a un électeur sur 5 qui ne sait pas, qui sait qu'il va aller voter, mais qui ne sait pas pour qui il va voter. On a aujourd'hui 24% des électeurs qui sont sûrs d'aller voter, qui déclarent qu'ils peuvent encore changer d'avis.
23% aujourd'hui. Exactement.
À 23%, très bien. Merci de me corriger. J'étais sur 24, en fait. Mais c'est le score de la même manière. On a des pendules incroyables à gauche. Hein, c'est-à-dire que le troisième homme qui monte 0,5 par 0,5 par 0,5, eh bien dans le secret de l'urne, vous ne savez pas comment ça termine, le secret de l'isoloir, vous ne savez pas comment les choses se terminent sur ce vote utile. Ok, moi je ressens quand même que hier la candidate des Républicains a d'une certaine manière arrêter l'hémorragie, voilà, je dirais ça comme ça, c'est-à-dire que elle ne s'est pas, peut-être pas donné les moyens de remonter parce que c'est trop près, mais en tout cas elle a arrêté le toboggan, ce qui est assez difficile dans une campagne, et il me semble qu'elle l'a fait, voilà, tout ça à mon avis se fera au détriment du candidat qui a fait irruption dans cette campagne présidentielle à l'automne qu'on connaît tous très bien, qui à mon avis sera le grand brûlé de cette campagne présidentielle. Avec évidemment les scores désastreux à gauche, la grande déception qui s'annonce pour la couleur verte et encore plus grande pour ma famille politique d'origine qui est évidemment la couleur rose, voilà, je le dis comme ça. Mais il est certain que en 2002, juste un rappel, Jean-Marie Le Pen, le dimanche 14 avril, est noté à 18,4%.
C'était un 15 avril. Non, c'est le 14, c'est le 21 avril,
merci.
Vous avez raison.
Il est à 10,4. Ok, il termine à 18%. le 21 avril. Et Lionel Jospin fait le chemin inverse. Lionel Jospin est très largement devant, ils sont Chirac et lui, et Jean-Marie Le Pen est très loin. Et ils font Lionel Jospin contre, comme neige au soleil, et pour arriver au résultat qu'on connaît. Donc, je vous dis, j'entends des commentaires, hier je commentais moi-même, cette forme d'assurance que montre d'ailleurs le candidat président, comme si cette campagne n'était qu'une formalité pour lui, genre presque ça ne l'intéresse pas. Eh bien, je vous dis, gare à vous, les surprises dimanche prochain.
Jean Dorido,
oui, alors,
qui lui est vert parce qu'il est très frais.
Oui, oh, oui, oh, c'est gentil de le rappeler.
Ce qui n'est pas le cas de nous, je te remercie. Oh,
c'est vrai que...
Moi, je ne sais pas quelle couleur j'ai.
Toi, tu es le bleu roi, mon vieux.
Françoise a dit l'essentiel en parlant de 2002. En fait, c'est ça. La seule question qui se pose aujourd'hui, c'est de savoir finalement va-t-il y avoir ou non des surprises au soir du 10 avril. C'est quand même un fait. Les sondages ne se trompent jamais sur l'affiche du second tour à 8 jours de l'élection, sauf précisément en 2002. Toutefois, c'était il y a 20 ans. Les techniques se sont encore perfectionné. Et puis, il y avait 16 candidats à l'époque, ils ne sont plus aujourd'hui
que 12.
C'est très très compliqué de commenter, je trouve, aujourd'hui, à 8 jours du vote, ce rolling, parce que précisément, on serait tenté de commenter déjà l'affiche de second tour promise depuis tellement longue date. Et en même temps, effectivement, tout le monde était chaudé par 2002 en se disant, mais est-ce qu'il ne peut pas y avoir peut-être... une surprise, quelque chose.
Ah, moi, je ne suis pas échaudé du tout.
Quant,
hein,
à la remontée d'un demi-point de cette dame qui est patronne de l'Île-de-France, je trouve Philippe Bilger très, très indulgent parce que la campagne a quand même été calamiteuse jusqu'à maintenant.
Pour
redresser la barre.
Les vraies voix, 17h15. C'est fabuleux de commenter des rollings, pardon, en ne pouvant pas dire les noms des candidats.
C'est
tellement surréaliste que je me dis qu'on pourrait pratiquement en faire un film comique.
Je pense que Philippe Bilger, qui observe depuis très longtemps, et vous aussi, peut-être Jean un peu moins, parce que
vous étiez moins
dans les médias, surtout. Jamais nous n'aurons vécu une campagne, je pense, de cauchemar à ce point. C'est vraiment une campagne épouvantable de A jusqu'à Z.
Cela dit, pour aller dans le sens de Françoise, je me suis refait des vidéos, je me rappelle, de 2012, donc c'était il y a 10 ans.
Oui.
Et je trouve que dans tous les camps, il y avait une espèce de ferveur, une espèce d'enthousiasme, comme pour une présidentielle, quoi. Alors là, certes, il y a eu la pandémie, il y a la guerre en Ukraine. Toutefois, c'est vrai qu'on a quand même le sentiment qu'elle n'a même pas eu lieu.
Il y a la ferveur chez Mélenchon, chez Zemmour, enfin, chez le candidat d'extrême gauche, chez le candidat d'extrême droite, il y a la ferveur, on peut la voir. Après, la ferveur chez les autres, dans les autres meetings, compliqué.
Vous avez parlé de cauchemar, mais c'est un rêve de faire cette émission avec vous, mes vrais voix.
N'importe quoi.
Vous voyez
quoi,
que ça vous fait plaisir quand même.
Non, mais Philippe Bilger réagissait un peu.
Bah
non, mais moi j'adore.
Bah
mais...
voilà, lui au moins il ne demande pas non.
Il ne demande pas son plaisir.
Les vrais voix.
On ne peut pas lui reprocher de nous gratifier même en permanence.
Avec les grâces.
Il a conscience de son infirmité.
Les vrais voix, 17h17. On se retrouve tout de suite avec nos vraies voix du jour pour les tours de table de l'actualité.
Petit jardin de banlieue, je viens te chanter la balade des gens heureux.
Les vraies voix Sud Radio, 17h20, Philippe David.
Retour des vraies voix avec Albert Einstein, Marie Curie.
Et Sigmund Freud.
Il se souvient
même
plus. Non, mais je le regardais.
Il se souvient même plus, c'est Vlagornov.
Non, parce qu'il a vraiment le regard de Freud.
Faut que
je trouve Jean Dorido.
David,
oui.
Je ne suis pas du tout fanatique de Monsieur Freud. Paix à son âme,
génie.
Il est mort.
Mais c'est un génie total.
Donc je vous donnerai le nom de quelques psychologues vraiment très très pointus à l'occasion.
Mais c'est un génie total. Il y a très peu de gens.
Mais il était pas mal Freud tout de même.
Non, mais il y a peu de gens dans l'histoire de l'humanité dont on peut dire qu'ils ont changé la conscience de l'humanité. Et Freud, il en fait partie.
C'est parti pour les tours de table de l'actualité.
Les vraies voix Sud Radio.
Philippe Bilger, son chanteur préféré après Jean-Jacques Goldman, Caris, qui chante Sevran. Vous voulez parler de Sevran?
Oui, alors j'ai toujours scrupule à parler de ces choses-là quand Françoise est là, parce que elle est une contradictrice redoutable. Mais en l'occurrence, il faut bien être clair. Je ne discute pas, évidemment, la réalité d'une tragédie familiale. Un homme a fait l'objet d'un tir, d'un unique tir, de la part d'un policier. Une enquête, une information a été ouverte. Il a été mis en examen pour coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Ça n'empêche pas les médias, certains médias, de parler « le policier a tué ». Ce qui me gêne la plupart du temps, c'est dans la relation de ces événements, c'est le fait qu'on occulte, on omet, pour aller vite peut-être, un certain nombre d'éléments qui expliquent l'intervention de la police. Alors, en l'occurrence, je ne sais pas si le refus d'obtempérer méritait ce tir unique et qui peut-être a été fait dans des conditions de précipitation, mais je n'aime pas qu'on ne rappelle pas, par exemple, que cette victime était au volant d'une camionnette volée, que par ailleurs, en effet, il a cherché à se soustraire au contrôle. Et j'ai été frappé par le fait que, par exemple, et je ne parle pas des sites Mediapart et autres, mais que lors des obsèques de ce jeune homme, seuls les avocats de celui-ci ont pris la parole et qu'ils ont fait littéralement appel à des témoins en disant « il faut absolument contredire la version de la police ». À supposer que la version de la police soit la bonne, je trouve cette attitude déontologiquement discutable. Voilà, pour me résumer, pardon, j'ai été trop long, qu'on rende compte de ces événements, je le comprends, mais qu'alors on soit parfaitement honnête dans la relation qu'on en donne et qu'on n'en fournisse pas une version biaisée.
Jean Dorido.
Oui, non, alors pour répondre sur la presse, sur la relation des faits par la presse, pour répondre à Philippe Bilger, pour ma part, j'ai lu Le Parisien aujourd'hui en France sur cette affaire, et ce pauvre homme qui est décédé aujourd'hui, cette histoire de camionnette volée, en fait, il était transporteur, il avait une société de transport, et il a été rapporté dans Le Parisien aujourd'hui en France qu'en fait, il était avec un client qui était un mauvais payeur qui ne le payait pas, et il serait allé récupérer son dû chez ce monsieur qui n'avait pas d'argent pour le régler. Il lui a dit, écoute, je te prends, puisque c'est comme ça, je te prends un camion. Et le type a immédiatement porté plainte auprès de la police, et c'est pour ça que cette estafette s'est retrouvée sur la liste des véhicules volés, ce qui expliquerait bien sûr la décision du policier, qui a eu les conséquences funestes qu'on connaît. Pour autant, je n'ai pas le sentiment personnellement d'avoir lu de mauvaises informations ou des informations partielles et partiales sur cette triste affaire dans laquelle un homme a perdu la vie.
Françoise Degoy.
Par ailleurs, très souvent condamné. Hein, c'est un détail.
Cela dit, manifestement, c'était il y a très très longtemps. Enfin voilà, il y a eu un papier très bien fait dans le journal pour le coup. C'était il y a très longtemps. C'est un garçon qui avait connu des péripéties, et manifestement, il était tombé amoureux. Il était avec une dame qui le cadrait, et il était tout à fait honnête. Et il avait cette affaire de transport, et c'est terrible ce qui s'est passé quoi.
Non mais Philippe, en plus, c'est pas de vous. Ça de sortir son casier judiciaire, c'est comme les gens qui ont sorti le casier judiciaire de George Floyd. Il y a une faute évidente de la part d'un policier. Personne ne mérite de mourir pour un contrôle de routine. Surtout, ce qui est plus grave et qui me semble plus grave, c'est que ce qui apparaît au-delà de Mediapart, c'est qu'il y a eu des témoignages officiels faux. Et c'est ça le sujet. Après, je vous accorde ce que vous dites, moi aussi je me pose la question si j'étais policière, dans quelles circonstances je suis amenée à sortir mon arme, dans quelles circonstances, comment est-ce qu'on pèse ces choses-là. La réalité, c'est que pour que le parquet requiert ce type de chef de mise en examen, c'est très lourd. Ça veut dire qu'il y a des choses très lourdes sur ce policier, et d'une certaine manière, tant pis. Il y a un homme qui est mort, il y a une différence entre être choqué psychologiquement parce qu'on a tiré sur quelqu'un, et quelqu'un qui est mort froid entre quatre planches. Voilà. Et là.
Mais puis.
Là, il y a un échec, là, évidemment.
Non, voilà. Philippe Bilger, en une minute.
Mais Françoise, puis-je vous contredire ?
Allez-y,
d'abord, je vous en prie. D'abord, le fait, vous affirmez une culpabilité qui n'est pas démontrée. Deuxième élément, je ne trouve pas indécent de ma part de dire que cet homme qui est une victime pour sa famille, eh bien, en effet, il est nécessaire de connaître son passé. Depuis 3 ans, il s'était tenu tranquillement, mais il avait été souvent condamné. Ça n'est pas justifier le tir si le policier est coupable. C'est faire œuvre d'information.
Oui.
François...
Non. Bah, vous êtes un avocat général. Généralement, moi, je suis toujours d'accord avec vous sur la justice, oui. Philippe. Vous êtes un avocat général humain et juste et sévère. On peut pas, dans la même... Enfin, je crois pas qu'on puisse parler de cet antécédent. Là, à l'évidence, il y a une faute qui est lourde, qui semble lourde. Voilà, elle sera sanctionnée ou pas. Je pense qu'elle est déjà sanctionnée moralement pour ce policier qui est détruit de ce qu'il a fait. Voilà, ça déjà à la base. Mais il y a une différence entre perdre sa vie et être choqué parce qu'on a tué quelqu'un. Il y a une grande différence, c'est qu'entre les deux, il y en a un qui est mort et l'autre pas. Voilà.
Oui, mais Françoise, bon, j'ai plus le temps.
Si, allez-y, c'est pas grave. 20, 30 secondes, je vous laisse mon tour de table, c'est pas grave, Philippe.
Non, mais on le fera après, à 18h. On n'a pas le temps de faire un second tour de table, on le fera à 18h.
Non, mais donc on laisse sans père parler, Philippe, ça me va très bien.
Non, je voulais dire, moi, je considère que dès lors qu'on rencontre une affaire qui a ému l'opinion publique, et je le comprends, et qui met en cause un policier qui a été placé sous contrôle judiciaire, on a le devoir de respecter la présomption d'innocence, premier point, et d'autre part, de dire tout ce qui en amont nourrit cette affaire. Et donc, peut discuter mon point de vue, mais...
Non, mais je voulais juste vous dire,
Philippe... J'ai la faiblesse de le maintenir.
Philippe, non, bien sûr, mais l'honnêteté consiste à dire que cette affaire, dans un premier temps, a été traitée totalement à charge contre le camionneur. Totalement à charge. Et vous le savez très bien, ça a été traité dans beaucoup de chaînes d'infos, un certain nombre, en tout cas une en particulier. Tout était à charge sur ce livreur. Et quand on commence à dérouler le fil, on se rend compte que non. On se rend compte que là, il y a un souci. Mais cette affaire, elle n'a pas été traitée au départ, comme vous le dites, comme avec le papier pondéré du Parisien. Le même Parisien a fait des papiers complètement à charge il y a 15 jours lorsqu'on a commencé à traiter cette affaire. Donc c'est un rééquilibre pour moi, et c'est justice, en fait.
Et là, on a largement dépassé le temps.
Mediapart a dit le contraire, Françoise.
Oui, mais bon, Mediapart, c'est à part.
Voilà. Les vraies voix, 17h28 et 30 secondes. On a une minute de retard. Pas de souci. Notre
c'est
premier
ma
débat.
Faute.
Mais non. Vous avez l'absolution. Guerre en Ukraine, faut-il aller plus loin dans les sanctions ? Vous êtes 89,5% à dire non. Vous voulez réagir, le 0826-300-300 et les réseaux sociaux. On va en débattre avec Claude Blanche-Maison, ancien ambassadeur de France à Moscou.
Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David.
Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Françoise Degoy et Jean Dorido. Le monde entier est horrifié par les images de Boutcha. Même s'il faut attendre les conclusions des commissions d'enquête qui iront sur le terrain. La guerre a commencé en Ukraine il y a un mois et demi et pourtant la guerre continue nonobstant les sanctions. Des sanctions qui ne sont peut-être pas très bien ciblées puisqu'on n'exporte plus de sacs Vuitton ou Gucci vers la Russie mais qu'on importe toujours des milliards de mètres cubes de gaz, une manne à 800 millions d'euros par jour pour le régime russe. Coup de tonnerre en Allemagne, la ministre de la Défense Christine Lambrecht s'est prononcée pour un arrêt des importations de gaz russe. D'où notre premier débat, guerre en Ukraine, faut-il aller plus loin dans les sanctions ? Avec nous Claude Blanche-Maison, ancien ambassadeur de France, notamment à Moscou. Claude Blanche-Maison, bonsoir.
Bonsoir.
Bienvenue sur Sud Radio. Manifestement, les sanctions n'ont pas eu et n'ont toujours pas beaucoup d'effet.
Non, parce que leur objectif, c'était de faire changer Vladimir Poutine de ligne, de lui imposer un cessez-le-feu et l'amener à la table de négociation. Et manifestement, ça n'a pas marché. Alors, effectivement, les images atroces que l'on voit depuis hier sur les massacres qui ont eu lieu, provoquent l'idée que peut-être il faudrait renforcer les sanctions. Je ne crois pas que ce soit très utile. Ce qui serait plus utile, c'est en effet qu'il y ait des commissions d'enquête. Puisque les Russes disent que ce n'est pas eux qui ont commis ces assassinats atroces, eh bien, ils devraient être pour les commissions d'enquête. Je crois d'ailleurs qu'ils sont d'accord pour qu'il y ait une réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies à ce sujet.
Pardonnez-moi, monsieur l'ambassadeur, je sais pas, vous avez le titre d'ambassadeur de France, non ? Permanent ou pas ?
Enfin, non,
je vous appelle quand même monsieur l'ambassadeur. Je crois que les Russes,
si vous voulez, hein.
Les Russes eux-mêmes ont demandé la réunion au Conseil de sécurité. Donc c'est
absolument, oui.
C'est eux-mêmes qui l'ont demandé. Moi, je voulais parler avec vous d'un point très précis. C'est vrai que tout ça a l'air extrêmement accablant, il y a très peu de doutes, mais la réalité, c'est que c'est vrai que l'opinion est un peu rafraîchi par toute la manipulation qu'il y a eu sur Timisoara, par exemple. Donc, voilà. il y a toujours ce recul que nous avons avec l'idée que tout ça a servi de prétexte aux frappes de l'eau. Oui, vous m'entendez ?
Oui,
mais
bien, oui.
Je voulais juste qu'on appuie, si vous êtes d'accord, sur une chose, c'est-à-dire que Vladimir Zelensky parle de génocide, et évidemment, la plupart des nations parlent de crimes de guerre, parce que génocide signifierait une obligation quasiment pour les alliés d'intervenir. C'est cela ou pas ?
Bah écoutez, génocide, ça a un sens bien bien précis.
Oui,
génocide, c'est la suppression d'un peuple sur des critères ethniques. Et par conséquent, en effet, techniquement, ça n'est pas un génocide. C'est un crime de guerre sans doute, mais ça n'est pas un génocide.
Non, mais on est d'accord sur la stratégie diplomatique de Vladimir Zelensky là-dessus. On est bien d'accord.
Alors effectivement, parce que génocide, c'est un mot évidemment terrible, mais on peut parler de génocide à propos de la Shoah. Hitler, en effet, avait un projet de suppression des Juifs, de la même manière qu'on parle de génocide pour les Arméniens dans le contexte de
1915.
La persécution qu'ils ont suivi avec Atatürk.
Philippe Bilger.
Monsieur l'ambassadeur, il me semble que le terme génocide a été utilisé par le président Zelensky non seulement à cause de cette barbarie, mais pour l'ensemble des opérations mises en œuvre dans l'Ukraine depuis le début. Et ça ne justifie peut-être pas davantage le terme de génocide. Mais je voudrais vous demander, vous interroger, est-ce que vous pensez également que si cette barbarie est en effet imputable au pouvoir russe, est-ce que elle peut être le résultat de groupes de sections militaires spéciales qui sont totalement désorganisées, quasiment en indiscipline, et qui se permettraient des actes atroces de cette manière, sans qu'on puisse donc relier forcément ce désastre humain à une instruction directe de Vladimir Poutine.
Oui, je suis assez largement d'accord avec ce que vous dites. En effet, on ne sait pas qui a commis ces crimes atroces, et c'est pour ça qu'il faut absolument qu'il y ait des commissions d'enquête et que l'ONU se saisisse du sujet. Bien sûr, ça peut être l'armée régulière russe, parce que on sait que l'armée régulière russe est peut-être très brutale, elle l'a montré à plusieurs occasions, et on sait aussi qu'elle a des problèmes de commandement, puisque vous le savez que dans l'armée russe, il n'y a pratiquement pas de sous-officiers. Il y a les hommes de troupe et les officiers. Ce qui est très différent du système français, par conséquent, rend le commandement et le maniement relativement difficile. Deuxièmement, ça peut être, comme vous l'avez suggéré, des groupes, des milices ou des groupes ayant une certaine autonomie, comme les groupes tchétchènes qui viennent se battre pour appuyer les troupes russes, ou bien, pourquoi pas, des Wagner. Après tout, tout est possible. Mais ça peut être aussi une armée qui se retire et qui laisse des éléments derrière elle pour assurer la protection de son repli. Et ces éléments, en effet, mal commandés, mal contrôlés, sont atteints d'une espèce de folie meurtrière. On a vu ça aussi au Vietnam avec l'armée américaine, on a vu ça dans d'autres occasions. Il faut qu'une commission d'enquête le détermine.
Jean Dorido.
Oui, non, c'est vrai que ça laisse sans voix de voir. Enfin, il y a ces images, quoi, qui nous arrivent comme ça de plein fouet, de voir à quel point ça ne change pas en fait avec le temps, quoi. La barbarie reste toujours possible en fin de compte, quelles que soient les époques, quels que soient les théâtres d'opération. Et ma question effectivement, c'est, je vous entends évoquer des possibilités. C'est vrai qu'on ne sait pas qui étaient ces soldats russes implantés implantés à Boutcha, est-ce que c'était des Tchétchènes, est-ce que c'était effectivement des Wagner, etc. Et selon vous, les informations que vous avez, la connaissance que vous avez de ce terrain, est-ce que certaines hypothèses vous semblent plus probables que d'autres?
Moi, je crois que tout est possible. Et c'est pour ça qu'on peut difficilement échafauder des hypothèses. En fait, le fond de la question, c'est que l'abomination, c'est la guerre. Et que la guerre peut assez facilement engendrer ce genre de massacre, ce genre de choses atroces qui, effectivement, sont totalement insupportables. Et dans le fond, c'est là où il y a quand même une responsabilité du gouvernement russe. C'est quand même le gouvernement russe qui, le 24 février, a décidé d'envahir l'Ukraine. Et cette invasion, compte tenu de ce qu'on sait, en effet, de la cohésion des troupes russes, de ses modes d'action, ce qu'on sait des milices qui gravitent autour de l'armée, ce qu'on sait aussi des Tchétchènes qui ont été appelés en renfort, des Wagner qui ont aussi été appelés en renfort, ouvre tout un tas de possibilités. Mais il y a aussi des possibilités autres. Lorsque les Russes disent qu'ils n'y sont pour rien, la commission d'enquête de l'ONU le déterminera. Il est possible aussi que des éléments ukrainiens soient sortis de leurs ordres, de leurs commandements, et massacrer des gens. On n'en sait rien aujourd'hui. Tout ce qu'on sait, c'est que c'est l'horreur, et que cette horreur, c'est l'horreur de la guerre. Il faut que cette guerre cesse. Il faut qu'il y ait un cessez-le-feu et que ce cessez-le-feu soit imposé par le Conseil de sécurité et par les grandes puissances. Bien sûr, les Russes s'y opposeront. Mais enfin, de plus en plus, on voit quand même la Chine s'interroger sur cette aventure et sur les inconvénients qui peuvent en résulter pour elle.
Philippe Bilger veut réagir.
Monsieur l'ambassadeur, les autorités ukrainiennes ont donné l'identité, selon elles, et les détails des sections et des groupes spéciaux qui auraient opéré pour commettre cette barbarie. Est-ce que vous pensez que ces autorités ukrainiennes sont totalement crédibles ou est-ce qu'elles sont capables, elles aussi, d'instrumentaliser quelque chose ?
On a parlé, en effet, de troupes héliportées dans la zone, très peu de temps avant le retrait. Mais est-ce que ça veut dire que ce sont ces troupes-là? D'ailleurs, quelles étaient ces troupes? Est-ce que c'était des troupes spéciales? Est-ce que c'était des éléments de l'armée régulière ou pas? On ne le sait pas. Alors, bien sûr, Kiev donne des renseignements précis, il faut vérifier la commission d'enquête. La commission d'enquête doit faire son travail. On ne peut pas aujourd'hui dire avec certitude quels sont les auteurs de cette atrocité.
Et puis surtout pas parce qu'on tombe dans une forme de manipulation. On n'a pas la capacité pour le moment. On ne peut pas entendre ce que disent les Ukrainiens. On verra aussi quand tout sera retombé, parce que maintenant, il faut être binaire. Vous êtes d'accord, monsieur l'ambassadeur? Il y a le camp des bons et des méchants parce qu'on est dans le feu de l'action. Oui. Mais à un moment donné, quand le précipité sera retombé, on verra aussi que le régiment Azov a commis des exactions probablement épouvantables à Mariupol. Mais je ne veux pas faire de comparaison parce que je ne veux pas mettre de bémol à ce que nous avons vu. Je voulais simplement, pour que nos lecteurs et nos auditeurs, comprennent bien, il y a quelqu'un qui est extraordinaire, que vous connaissez peut-être, monsieur Blanche-Maison, c'est Anna Colin Lebedev, qui est maître de conférence. Elle est exceptionnelle. Elle a fait une analyse sociologique de ce qui s'est passé en expliquant deux choses. Les soldats russes sont extrêmement jeunes. Ils sont souvent issus de milieux provinciaux et de milieux modestes. Ils ont été catapultés dans cette guerre sans vraiment savoir. Il y a donc un effet profond, psychologique, de rentrer en contact immédiatement avec la violence qui peut déchaîner sa propre violence. Problème également sur les officiers et la culture de la violence dans l'armée russe, notamment avec les violences infligées en Tchétchénie. Et donc elle dit, parce que c'est formidable ce qu'elle dit, il faut vraiment se poser, regarder l'ensemble des données, évidemment pour condamner, hein, ça c'est un premier point, mais ensuite bien comprendre quelle est la mécanique qui peut entraîner des jeunes soldats russes, souvent provinciaux, même de l'armée régulière, issus de milieux modestes, qui se rendent compte finalement qu'ils vont envahir un pays alors qu'ils ne sont pas au courant, et qu'est-ce que ça donne comme déchaînement de violence dans la tête et dans les faits. C'est passionnant. Elle s'appelle Anna Colin Lebedev, elle est extraordinaire.
Claude Blanche-Maison.
Tout à fait, non, je partage tout à fait ce que vous venez de dire, et on a bien dit que les jeunes recrues russes ne savaient pas ce qui leur arrivait. Ils étaient projetés dans un univers auquel ils n'avaient pas du tout été préparés, et ça peut provoquer évidemment des réactions de peur et par conséquent de violence. Et chez les officiers, il y a aussi bien sûr le souvenir de la Tchétchénie pour beaucoup d'entre eux, et là aussi l'absence pratiquement de sous-officiers est un handicap tout à fait important pour l'armée russe et pour sa capacité d'action dans des conditions normales.
Et sans oublier, le fait
que le droit de la guerre est un moindre mal, et que quand on parle de crimes de guerre, c'est très utile, c'est très bien, il faut poursuivre les auteurs de crimes de guerre, mais il faut surtout, par tous moyens, arrêter cette guerre. Une guerre en 2022 au centre de l'Europe, c'est une absurdité totale, c'est un anachronisme total, c'est inacceptable. Et c'est ça qu'il faut, je crois, traiter. Et puis ensuite, l'enquête, elle va mettre du temps, l'enquête, hein, parce qu'il y aura des magistrats qui seront désignés, ils vont faire leur travail très soigneusement, et ça prendra du temps. Mais tant mieux. Et j'espère qu'on pourra punir les responsables, quels qu'ils soient. Mais dans l'immédiat, il faut que cette guerre s'arrête, car elle n'a aucun sens.
Oui, monsieur l'ambassadeur, deux points très importants pour la compréhension vraiment de des gens qui nous écoutent. Beaucoup de généraux russes ont été tués en Ukraine, oui. Ce qui explique aussi probablement le fait que les troupes courent dans tous les sens comme des canards sans tête, c'est ça que je crois, enfin c'est une des analyses des spécialistes. Deuxième point, la réponse de Lavrov qui vient de tomber à l'instant, qui me paraît très porteuse d'angoisse et d'inquiétude. Les Russes parlent de provocation ukrainienne à Boutcha, parlent de manipulation, mais vous avez plus que quiconque l'habitude de la manipulation des Russes, mais quand même, je pense que cet effet-là peut avoir un effet tout à fait terrible dans la suite de cette guerre, en fait. Qu'en pensez-vous ? C'est-à-dire une riposte russe encore plus puissante et violente, quoi.
Je crois que pour le moment, les Russes sont en train de réorganiser leur dispositif et dans le fond, à part les bombardements, parce que ça, les bombardements par l'air ou par la mer ou par l'artillerie vont évidemment continuer, mais pour le reste... Pour ce qui est des troupes terrestres, ils sont dans une phase de réorganisation et ils ont probablement besoin de souffler, de faire des relèves. Et puis, comme vous l'avez dit, il y a des problèmes de commandement avec des généraux qui ont été tués, peut-être certains qui ont été démis de leurs fonctions. Et par conséquent, ils ont besoin d'un moment pour réorganiser leur dispositif. Alors, Zelensky joue son jeu. Il dit que voilà, c'est les Russes et le gouvernement russe joue son jeu en disant que c'est une manipulation des Ukrainiens. C'est tellement horrible de jouer avec ce que l'on a vu, avec ces images, que c'est inimaginable, si vous voulez. Enfin, moi, je vois dans le fait que les Russes demandent une réunion de Conseil de sécurité pour qu'on puisse y voir clair, qu'on puisse déterminer, qu'on puisse nommer une véritable commission d'enquête avec les pleins pouvoirs, quand même une lueur d'espoir. Mais la lueur d'espoir, encore une fois, ne viendra que lorsque le cessez-le-feu sera déclaré. Et pourquoi continue-t-on à négocier à Istanbul, quelquefois par Skype ou par Zoom, interposé, alors que cette guerre continue ? C'est absurde.
Vrai sujet, on continue d'en débattre dans quelques instants. Guerre en Ukraine, faut-il aller plus loin dans les sanctions ? Vous êtes 89,7% à dire non.
Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David.
Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Françoise Degois, Jean Dorido. Notre premier débat, guerre en Ukraine, faut-il aller plus loin dans les sanctions ? Vous êtes 89,5% à dire non. Avec nous, Claude Blanchemaison, ancien ambassadeur de France à Moscou. Claude Blanchemaison, comment faire pour que les sanctions soient efficaces ? Le gaz, comme le dit la ministre de la Défense allemande, qui dit qu'il faut arrêter d'acheter du gaz, c'est le nœud gordien. Je rappelle que ça rapporte à la Russie 800 millions d'euros chaque jour.
Oui, mais j'ai l'impression que le chancelier allemand n'est pas de l'avis de sa ministre de la Défense. Donc là-dessus, je ne suis pas sûr que la position allemande soit celle d'un embargo sur le gaz. Le chancelier Scholz a dit que l'Allemagne ne pouvait pas, à court terme, se passer de ce gaz. Alors, je pense que l'Union européenne peut, avec sa solidarité et en diversifiant complètement ses intérêts, s'en passer au bout de 1, 2, 3 ans, mais qu'en effet, à très court terme, c'est pratiquement impossible. En revanche, il est possible de se passer du pétrole et il est possible de se passer du charbon. Pourquoi ? Parce que le pétrole, c'est beaucoup plus facile à transporter. On le transporte par tanker.
Oui.
On n'a pas les infrastructures sont beaucoup plus légères que pour le gaz où il faut liquéfier le gaz puis le regazéifier après l'avoir transporté en méthanier et des usines de regazéification du GNL. Il y en a assez peu. Il y en a 4 en France. Il y en a pas du tout en Allemagne. Par conséquent, il y a un vrai problème industriel. Par contre, encore une fois, pour le pétrole, c'est tout à fait possible de trouver du pétrole sur le marché mondial ailleurs. Et le charbon, pareil. Donc je pense que l'Union européenne va plutôt se diriger vers un embargo solide sur le pétrole et sur le charbon.
Jean Dorido.
Oui, non, alors toujours pour continuer sur la question des sanctions, vous qui êtes diplomate, la question, parce que je vous entends bien sûr expliquer qu'il faut absolument un cessez-le-feu en Ukraine, bien sûr. Maintenant, quels sont les leviers d'action de la France, de l'Europe pour forcer sur ce cessez-le-feu? On voit le président de la République française qui parle avec M. Poutine, qu'il a au téléphone, il est allé le voir. Bon, manifestement, ça ne marche pas. Les sanctions, en l'état actuel, manifestement, ça ne marche pas. Et quelles sont, tout compte fait, les possibilités et de la France et de l'Europe, et même de la communauté internationale en général, sachant que la Russie, elle est au Conseil de surveillance de l'ONU, donc elle a un droit de veto, donc Conseil de sécurité de l'ONU. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour, je dirais, forcer la main des Russes avec tact pour qu'il y ait un cessez-le-feu en Ukraine ?
Claude Blanche-Maison.
Il y a deux volets, effectivement. Il y a, puisque, naturellement, il est exclu d'entrer directement en guerre avec un pays qui a l'arme nucléaire. Il reste donc la montée en pression, la montée de la pression par les sanctions. Et quand même, les sanctions qui ont déjà été décidées, sanctions personnelles et sanctions sur des secteurs économiques importants, ont un effet. D'ici quelques semaines, l'industrie aéronautique russe va avoir le plus grand mal à trouver des pièces détachées pour ses avions. Ça va donc être très compliqué, puisque les avions commerciaux sont cloués au sol faute de pièces détachées. Il faudra cannibaliser quelques-uns d'entre eux pour réparer les autres. Je crois aussi que ce qui est fait sur les technologies de pointe, sur les technologies duales, qui sont mises sous embargo, va pénaliser assez rapidement un certain nombre d'industries russes. Et puis, l'élite russe politique ou économique, les oligarques, considèrent que ça devient de plus en plus incommode. Par conséquent, même si elles ne le manifestent pas, ou très peu d'entre eux n'osent le manifester, on voit bien qu'il y a quand même une montée d'un certain mécontentement. Ça ne viendra pas du peuple, malheureusement, parce que le peuple est victime de la propagande nationaliste du gouvernement russe, et par conséquent, la popularité de M. Poutine est actuellement très élevée. Elle l'est même plus qu'avant l'invasion de l'Ukraine. Ça viendra du cercle restreint qui profite du système et qui, dans le fond, se trouve autour de Poutine, ou pas autour de Poutine, parce que les oligarques sont relativement autonomes, mais ils profitent du système. Et il y a un moment donné où, pour eux, il y aura beaucoup plus d'inconvénients que d'avantages. Et par conséquent, ils feront pression pour qu'on arrête. Il y a aussi les Chinois, il faut agir sur les Chinois, qui probablement ont un très grand rôle à jouer dans cette affaire. Et pour eux, ce qui se déroule en Ukraine est sur le plan politique, sur le plan économique, extrêmement grave, même s'ils ne le disent pas, même s'ils ne le clapent pas sur les toits, puisqu'ils veulent conserver ces excellents rapports de partenariat avec la Russie qui leur fournit du gaz, du pétrole et éventuellement à bon compte. Je crois aussi qu'il y a d'autres pays sur lesquels il faut peser, qui peuvent aussi avoir leur poids dans la balance, d'autres pays asiatiques, parce que nous croyons, nous, que le monde entier est contre la Russie, c'est pas tout à fait exact, puisqu'on a vu aux Nations Unies, à l'Assemblée Générale, que la plupart des pays asiatiques, sauf le Japon, se sont abstenus. Ils n'ont pas voté avec la Russie, ils n'ont pas voté contre la condamnation, mais ils se sont abstenus.
tradition du non-alignement, et puis de dire ce conflit est une affaire d'Européens, que les Européens se débrouillent avec ce conflit. Et puis alors, par ailleurs, comme vous l'avez dit, à la ligne de négociation, celle d'Emmanuel Macron, il y en a quelques autres, bien sûr, les Turcs, les Allemands discutent aussi avec Macron, d'autres, Abramovitch discute aussi avec Poutine, et je crois que toutes ces lignes de négociation sont utiles, parce que à un moment, on ne sait pas lequel, eh bien, il y aura une sorte de précipité au sens chimique du terme, et ce sera le moment du cessez-le-feu, avec, en effet, ses codicilles et ses conditions. Avec, on ne réglera pas tout, évidemment, mais le cessez-le-feu est la priorité. Et puis, plus tard, viendra beaucoup plus tard, une conférence de paix pour régler le problème de fond.
Philippe Bilger, il nous reste 1 minute 30.
Je vais essayer de poser ma question très vite. Monsieur l'ambassadeur, je vous ai senti évidemment ému et légitimement indigné par cette guerre au centre de l'Europe. Est-ce que vous ne trouvez pas qu'il y a là un terrible paradoxe entre un monde international qui cherche à se civiliser le plus possible et la dictature malfaisante d'un homme qui en Russie est capable de porter atteinte par sa seule initiative à un système qui pourtant cherchait à être pacifié? Est-ce que ça ne démontre pas les limites et peut-être même une forme d'impuissance de la diplomatie classique?
Claude Blanche-Maison, très court s'il vous plaît.
Vous avez raison monsieur Bilger, mais je pense qu'il y a aussi notre aveuglement, parce que cette guerre, en réalité, elle dure depuis 2014, et même peut-être avant 2014. Donc on n'a pas voulu la voir, on a joué avec les accords de Minsk, le format Normandie, qui ont été impossibles à mettre en œuvre. Et puis des guerres, il y en a eu dans les Balkans, après la dissociation de l'ex-Yougoslavie, et puis il y en a ailleurs. Donc malheureusement, nous n'aimons pas la guerre, nous ne voulons pas voir la guerre, mais malheureusement, la guerre est dans ce monde qui n'a que l'apparence d'un monde pacifié, d'un monde multilatéral, qui voudrait exclure la guerre. Je crois que, de ce point de vue-là, l'Europe a réussi à exclure la guerre sur son territoire, y compris d'ailleurs avec l'affaire d'Irlande et d'Irlande du Nord. Donc je pense que créer des relations mutuelles, économiques très fortes, créer une culture du compromis, c'est quelque chose que nous pouvons exporter.
Merci beaucoup Claude Blanche-Maison, ancien ambassadeur de France à Moscou. Verdict sur Twitter. Guerre en Ukraine, faut-il aller plus loin dans les sanctions? Vous êtes 89,5% à dire non. On se retrouve tout de suite avec Les Vraies Voix.
Les Vraies Voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David.
Retour des Vraies Voix avec Philippe Bilger, président de l'Institut de la Parole, auteur du livre « Libre propos d'un inclassable » publié à la Nouvelle Librairie. Françoise Degoy, éditorialiste Sud Radio et LCI, auteur de « L'homme qui n'avait pas d'amis » publié chez Plon. Et Jean Dorido, docteur en psychologie et créateur de l'application Zenfi. À 18h30, notre grand débat, hausse record de la taxe foncière. Est-ce le prix à payer pour la suppression de la taxe d'habitation? Et vous êtes 64,7% à dire non. Ça va les Vraies Voix?
Ça va.
Au top. Prêt pour les tours de
très
table
bien
de l'actualité?
Oula. Oula.
Eh bien,
oula.
C'est parti.
Les Vraies Voix Sud Radio.
Alors, comme on a pu en faire qu'un tout à l'heure, il faut en faire deux dans un laps de temps réduit. Je vais vous demander de ne pas être trop long. Françoise Degoy, vous voulez nous parler de l'affaire Jeremy Cohen.
Voilà, c'est un drame absolu. Jeremy Cohen, c'est ce jeune homme juif.
Handicapé
à Bobigny. Qui, le 17 février, a été tué par un tram. Il a été écrasé par un tram. On apprend, 2 mois plus tard, qu'avant qu'il soit écrasé par ce tram, en réalité, il est tombé dans un guet-apens et plusieurs personnes l'ont tabassé. Et c'est en voulant fuir de ces personnes, finalement, qu'il a été percuté par le tram. La vidéo circule. Évidemment, c'est... De mon point de vue, il avait une kippa sur la tête, donc on peut imaginer évidemment que c'est un acte antisémite. Sans problème, après il faut manier ça avec précaution. La réalité, si vous voulez, c'est que cette affaire ne sort que maintenant. C'est un grand traumatisme et un grand effet de sidération, parce qu'on voit quelqu'un qui est tabassé, la vidéo est très éprouvante.
Ah oui.
Elle est évidemment instrumentalisée immédiatement par un certain nombre de réseaux dont que je préfère taire parce que de toute façon, on est en campagne présidentielle, mais vous imaginerez bien lesquels. Je suis sidéré par la violence de cette mort, par tout ce qu'elle génère. Et je voulais simplement signaler également dans ce débat, grâce à Noémie, que nous connaissons bien sur cette antenne.
Noémie Alua.
Alua, qui a eu les parents du jeune Jérémy Cohen. Les parents sont très tristes et furieux que cette vidéo ait circulé, que cette vidéo se soit retrouvée notamment tweetée par un candidat à la présidentielle. Je pense que c'est parce que les parents considèrent que c'est la dignité de leur enfant qui n'est pas respectée en montrant ces images. Je pense qu'en sous-titre, il y a aussi la peur que cette mort tragique, atroce, soit instrumentalisée. Mais en tout cas, on est là dans quelque chose d'épouvantable. Et je crois qu'il ne faut pas accuser la presse de faire le blackout pour, préserver le gouvernement de la moindre réponse à quelques jours, parce que c'est ça qui circule sur les réseaux, le complot mondial. Non, la réalité, si vous voulez, c'est que personne n'était au courant. Les journalistes étaient au courant du fait qu'un jeune homme avait été écrasé par un tram, mais personne ne connaissait, si vous voulez, ce qui s'était passé avant. Moi, je suis très triste, je salue la famille, et j'espère que toute la lumière sera faite.
Philippe Bilger, court, Jean Dorido, court, parce qu'il faut faire le tour de table de Jean Dorido, qui va être court aussi.
La dignité de la famille françoise est incontestable. Je ne connaissais pas cette tragédie, hein. Mais je note une fois de plus que, à partir du moment où on parle de Lamont, il y a une politique contre les propos et les actes antisémites qui manifestement ne réussit pas. Les actes et les propos augmentent. Il y a quelque chose qui ne va pas.
Ouais, Jean Dorido.
Bravo.
Non, bah je rejoins Philippe et Françoise. À l'identique de Philippe, je n'étais pas au courant de cette triste affaire. Et moi aussi, j'espère que toute la lumière sera faite. Et j'ai une pensée pour la famille de ce pauvre Jérémy.
Jérémy Cohen. Votre tour de table, Jean Dorido, ça concerne les scènes de guerre à la télévision, et là c'est le psy qui va parler, et le père de famille aussi, on peut le dire.
Oui, l'un n'empêche pas l'autre.
Parce que vous avez un petit garçon de 7 ans qui est absolument adorable.
Grâce à Dieu, ça fait plaisir. Et c'est un papier justement dans le Parisien aujourd'hui en France d'aujourd'hui. Les parents se posent la question, comment parler de la guerre en Ukraine aux enfants, et ils expliquent effectivement le problème qu'ils ont avec les images terribles qui passent à la télévision. Et évidemment, ce qu'il faut rappeler, c'est que oui, il est essentiel de parler aux enfants de ce qui se passe en Ukraine, évidemment, ne surtout pas faire le blackout. Et en même temps, si vous avez des enfants jeunes chez vous, évidemment, coupez les écrans, coupez la télévision, parce que je lisais dans ce papier un père de famille qui dit dès que j'entends que ça parle de la guerre en Ukraine, je zappe. Et ça, en fait, c'est pas bon, parce que les enfants sont des éponges, et il suffit d'une image choc, même une fraction de seconde, même si vous zappez, c'est trop tard pour un gamin. Le mal est fait, il prend ça en plein dans la figure. Donc évidemment, parlez de la guerre avec vos enfants, demandez-leur ce qu'ils en savent d'abord, dites-leur qu'est-ce que tu as entendu à l'école, qu'est-ce que tu penses de tout ça, et puis échangez avec eux, montrez-leur des cartes, montrez-leur Rousset, et puis surtout, rassurez-les, mettez un cadre rassurant sur ce qui se passe, expliquez-leur que la France n'est pas en guerre, expliquez-leur qu'il y a des règles internationales, qu'il y a des personnes qui ne les respectent pas, que la communauté internationale fait son travail précisément pour que tout cela s'arrête, et surtout protéger vos enfants des images télévisées, parce que ça, une image vaut mille mots, les Asiatiques le disent depuis toujours, c'est une réalité, et les traumatismes peuvent être sévères.
Françoise Degoy et Philippe Bilger, court.
Rien à rajouter, formidable explication. Merci Jean, mais il faut le dire et le redire parce que je crois que c'est un piège terrible en réalité. Un instant d'inattention et paf. Mais les chaînes, je précise quand même que les chaînes dans lesquelles nous travaillons, les chaînes floutent et font très attention aux images qu'elles montrent. Vraiment, là-dessus, elles sont assez exemplaires.
On est entièrement d'accord. Philippe Bilger.
Jean, vous parlez des enfants et vous avez totalement raison. Et en ce qui me concerne, je connais des adultes qui ont regardé les journaux télévisés et qui ont été tellement effondrés par les images qu'il n'y avait qu'une solution, c'est qu'elle ne regarde plus les journaux télévisés. Donc, ce qui atteint terriblement les enfants peut toucher les adultes, qui sont peut-être aussi fragiles par certains côtés.
Merci de le rappeler, Philippe. C'est vrai, vous avez raison, c'est un complément nécessaire. Il y a la formule consacrée qui consiste à dire à la télévision, ces images sont déconseillées aux âmes sensibles et aux enfants. Et c'est un fait, on peut le dire à toutes les personnes qui nous écoutent, si vous vous sentez un peu fragile, si vous êtes une personne particulièrement sensible, c'est vrai que c'est plus raisonnable de se protéger des images et de basculer sur la radio précisément et sur la presse écrite.
Les vraies voix, 18h14. Vous ne savez peut-être pas pour qui vous allez voter, mais il y a une nouvelle application très sympathique, ça s'appelle Match ton président. Ça vous dit quelque chose ? Alors oui. Évidemment, on ne citera pas de nom.
Tout.
Eh bien, vous faites un test. Je vous l'ai envoyé, les vraies voix, par mail ce matin. Et vous pouvez faire votre heure. Ça va intéresser le psy. C'est un autre psychologue qui va être avec nous. On le connaît bien sur Sud Radio puisqu'il passe régulièrement chez Brigitte Lahaye. C'est un grand spécialiste des émotions. Et il va nous parler de cette application. Personnellement, j'ai fait le test. C'est très amusant. Et ça nous met un peu de légèreté quand même dans cette actualité un peu lourde. Restez bien avec nous et les vraies voix.
Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David.
Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Françoise Degoy, Jean Dorido. Vous savez ou vous ne savez pas si vous allez voter pour qui. Et une appli très amusante vient d'être lancée par un psy qu'on connaît bien sur Sud Radio, Robert Zuilly. Bonsoir Robert.
Bonsoir.
Puisque vous passez régulièrement chez Brigitte Lahaye, vous êtes un grand spécialiste des émotions. Il y a un autre docteur en psychologie en face de vous, Jean Dorido d'ailleurs. Et on va parler justement, vous êtes fondateur de Workwell Together et de cette appli qui s'appelle Match. Alors c'est pas Match de football ou de rugby, c'est Match coïncidé en anglais, Match ton président. De qui pourriez-vous être le Premier ministre ? C'est le test. Comment est-ce que vous avez créé ce test ? Qu'on est deux à avoir fait, il nous a rejoint, Fred Brindel, et qui est très amusant.
J'aimerais bien savoir le résultat, pardon.
Ouais, je vous en prie. En fait, l'idée nous est venue parce que Workwell Together existe et propose de mesurer la compatibilité relationnelle entre les personnes pour les aider à bien travailler ensemble. Et ça, c'est fondé sur 15 années de recherche en psychologie des émotions. Et avec les élections, on s'est dit, mais il y a 40% des votants qui savent qu'ils vont voter et ils ne savent pas encore pour qui ils vont voter. Et nous, on est probablement en capacité de les aider peut-être à comprendre qu'est-ce qui fait que tel candidat, on va se sentir un peu en affinité avec lui, tel autre, pourquoi il nous agace. Parce qu'il y a le même clivage émotionnel que le clivage politique. C'est-à-dire que la droite, elle se fonde sur la peur. La gauche, elle se fonde sur la colère. Et donc, c'était pour nous relativement facile, par exemple, c'était relativement facile de fonder, de créer des avatars émotionnels, c'est-à-dire ce sont des doubles numériques des candidats, puisqu'on a été, j'ai été personnellement les étudier pour créer ces avatars. Et donc, on peut se matcher avec ces avatars pour comprendre mais pourquoi tel candidat qui a tel passé, pourquoi il va me toucher plus que tel autre, et pourquoi émotionnellement je me sens en compatibilité avec lui.
Alors justement, avant de donner la parole aux vraies voix qui sont des experts en psychologie, en particulier Jean Dorido, il y a 5 points importants. Le feeling, la compatibilité profonde, la complémentarité, la connivence et l'entente. On va en parler aussi avec évidemment notre ami Fred Brindel, qui est le seul avec moi à avoir fait le test. On ne citera aucun nom de candidat, on vous le dit. C'est pourquoi ces 5 points ?
Mais parce que quand on a fait nos recherches sur la relation, on s'est rendu compte que la relation, c'est un lien. Un lien, vous pouvez faire une analogie avec une corde. Quand vous regardez une corde, elle n'est pas faite d'un seul tenant. Ce sont des fibres qui, bien entrelacées, font la force du lien. Mais en fait, ces 5 dimensions, ce sont 5 fibres émotionnelles qui font la force du lien. Et vous les avez présentées rapidement. Le feeling, c'est cette capacité qu'on a. Vous savez, quand quelqu'un nous parle, on se dit « bah oui, c'est bon, je le comprends bien. Ça y est, je suis aligné. » Et il s'avère qu'il y a une candidate qui adore les chats, puisqu'on a fait des petits sondages. On a pris 5000 personnes de notre base, qu'on a anonymisées, et on les a matchées avec tous les candidats. Et on a regardé par fibre relationnelle quels candidats ont telle fibre la plus développée. Ben, cette candidate qui adore les chats, elle a une bonne entente immédiate avec tout le monde, un bon feeling. C'est-à-dire que quand elle parle, elle est comprise assez rapidement par les gens. Et puis il y a d'autres fibres où il y a d'autres candidats qui arrivent en tête de ces sondages.
Je vais donner la parole non pas à notre docteur en psychologie, mais à notre maître à tous, Philippe Bilger, qui va faire le test et à mon avis... Je pense que c'est lui qui devrait être le président dans quelques semaines.
Non, mais n'importe
c'est pas
quoi. Vous n'avez pas, pas testé la flagornerie, Robert, parce que moi, j'en peux plus. Hein. C'est des droits.
Ah non, mais c'est bien déjà testé.
François. Moi, j'appelle ça de la diplomatie, si vous voulez. Ah, ouais. Comme ça.
Philippe Bilger.
Et puis, c'est bien, il revient, donc il a le droit d'être flagorneur. Il faut arrêter. Mais Robert, oui, si vous le permettez, je ne ferai pas le test pour une raison simple. C'est que je suis persuadé que je serai compatible avec un président qui a fait une campagne éblouissante en 2007 et que, par ailleurs, j'ai décrit pratiquement en permanence. Voilà. Donc je ne ferai pas.
Oui, c'est, ce que vous voulez...
Il va faire Sarkozy tout le monde.
C'est vous éviter des déceptions, je comprends bien. Mais vous savez, certaines déceptions peuvent aussi traduire de vraies révélations et c'est peut-être ça que vous perdez. C'est dommage.
Tiens, l'avis de notre...
C'est-à-dire que je n'aime pas cette idée que je ne la découvre pas, qu'on déteste parfois ce dont on est le plus proche.
Eh bien, vous avez bien raison, parce qu'au plan émotionnel, certaines de nos turpitudes personnelles, on peut les retrouver chez des candidats et on va la trouver acceptable là. Et c'est un moyen de s'identifier de manière acceptable.
Bon,
à quelqu'un.
Le psy, il y avait Simon et Simon, la série américaine, là c'est psy et
Dupont
psy.
Et Dupont, du Dupont, Dupont.
Allez-y, Jean-Denis Rideau.
Non, mais écoutez, c'est vrai que c'est toujours fascinant, toute manière, d'essayer de comprendre qu'est-ce qui fait que les personnes matchent les unes avec les autres ou pas, et c'est vrai que c'est un vrai sujet de management. Il y a énormément de modèles qui existent pour faire ce qu'on appelle en bon français du team building, de la construction d'équipe. À titre personnel, ce que j'ai remarqué chez les quelques rares politiques qu'il m'est arrivé de croiser en vrai, c'est qu'ils ont, je trouve, tous un talent inouï pour être séduisants. Justement, ce sont d'immenses séducteurs et ils ont le chic, je dirais, toute tendance politique mise de côté, ce sont des personnes, je dirais presque en fin de compte, c'est leur métier dans le fond. C'est-à-dire que le métier d'un politique, c'est d'être sympathique, c'est de se faire aimer des gens. Ils sont là pour serrer des mains, pour inaugurer des salles des fêtes, pour inaugurer des amicales de boulistes et autres. Je parle pour les élus locaux. Et ceux qui arrivent, je dirais, au plus haut niveau, ils ont un vrai, vrai savoir-faire là-dessus. Et ça j'avoue que
en bon psychologue,
ça me fascine, ce talent pour être sympa. Dans le fond.
Mais ce qui est troublant, parce que vous avez raison, ce sont des animaux politiques, on pourrait dire, et à ce titre, ils savent comment parler. Mais pour autant, ils ne créent pas tous la même impression. Et tout le monde n'a pas le même ressenti de tel ou tel candidat. Il y en a qui savent se faire haïr, d'autres qui savent se faire aimer, alors que pour autant, on pourrait dire, tous, ils devraient être compatibles.
Mon cher Robert, vous qui intervenez souvent chez Brigitte Lahaye, typiquement, leur fonction est aphrodisiaque, par exemple. Ça, c'est quand même un grand invariant. Je dirais, quels que soient les couleurs des uns et des autres, ils ont quand même un succès que manifestement ils n'obtiendraient
vous
pas dans la vraie vie.
Sans Antoine de Goy vous regarde bizarrement.
Ils bénéficient d'un succès.
C'est une vision qu'on pourrait considérer d'idéaliser.
Qu'ils n'obtiendraient pas sans leur fonction. Ouais.
Intervenez, Robert, sur les émotions ou des conseils plus opératoires?
Françoise de Goy.
Je vous parlerai de mes tarifs.
Moi, je crois que je ne suis pas d'accord du tout avec Jean, bien sûr, sur la séduction. Ça fait partie du travail des hommes et des femmes politiques, que je connais très bien. Non, mais ils sont tous, Jean a absolument raison. Vous soyez un élu local ou que vous soyez un président de la République, vous fonctionnez sur les mêmes ressorts. Moi, pour les connaître bien et pour les avoir bien fréquentés, tous les hommes politiques et les femmes politiques ont ceci en commun, d'une immense maturité, une immense profondeur, parce qu'on n'arrive pas à ces niveaux-là, et d'une immense infantilisme. J'ai toujours été frappée par le caractère très infantile de quelqu'un comme Nicolas Sarkozy, dans certains aspects, de Ségolène...
Merci, François.
De Ségolène Royal, de Macron... Ou même de François Hollande, donc, qui est le plus équilibré de tous, d'ailleurs, probablement... Même
le moins déséquilibré.
Le plus méchant aussi. Ouais. Mais ce qui est certain, c'est que je ne suis pas d'accord avec vous, Jean, sur cet art, ce travail... À la base de la fonction politique, au point de départ, il y a toujours un sentiment très noble de vouloir changer le monde. C'est pas simplement de vouloir exister, etc. Il y a, chez tous les politiques, deux choses, et je vous le dis et vous le savez, c'est l'envie de changer le monde, et la deuxième chose, la peur absolument de la mort. Moi, j'avais fait une super interview avec Fabius, il était très tard, c'était au salon des éditeurs, au café des éditeurs, j'étais là pour France Inter, et il s'était complètement livré, et il y avait cette peur de mourir, qui est quelque chose qui est probablement très aigu chez les politiques et qui explique aussi leur chemin et leur mission.
Alors Robert Julie,
vous n'êtes pas d'accord ?
Parce qu'après, il faut que notre cobaye réagisse.
Je vous rejoins totalement. Et une des manières d'être immortel, en quelque sorte, c'est de laisser une trace dans l'histoire.
Absolument. D'être élu.
Et donc, c'est là où on est cohérent avec soi-même.
Bien sûr.
Mais aussi, on a besoin de cette reconnaissance. Et parfois, ce qui est difficile, c'est de gérer cette dépendance à la reconnaissance. Et c'est là où on voit vraiment la maturité émotionnelle des candidats qui sont plus ou moins en capacité d'accepter d'être aimés ou d'être haïs par certains.
Fred Brindel qui a fait le test il y a quelques minutes sans citer le nom de personne.
Hein, et ça y est, je deviens immortel puisque je suis dans l'enregistrement. J'ai laissé une trace. Cher psychologue, c'est une démarche qui me passionne parce que j'ai la passion de la psychologie.
Oui. On dirait pas.
Ça c'est vache.
Vous voyez le niveau de compatibilité entre les vraies voix.
Je crois que
c'est l'amour
on va leur proposer.
Je vous propose une certaine vision de ce qu'est l'attraction-répulsion entre Françoise et moi.
Pas du tout. Attraction. Ça s'appelle une blague en fait. Et l'autre, tu sais, c'est une blague. C'est juste une vanne.
Ah bon ? Ah ben j'avais pas compris.
Frédéric Brindel.
Ah bon, d'accord.
Il va vous attaquer pour harcèlement, vous savez.
Frédéric Brindel, alors vous avez pensé quoi ?
Concrètement, il y a trois candidats desquels je me rapproche. J'ai matché avec plus de 60%.
Il n'y a pas de femmes, il y a des hommes, que des hommes. Non mais donne-nous des indices.
Il n'y a que des hommes sur ces trois-là. Bon. Et il se trouve que ces trois, je ne m'en rapproche pas du tout politiquement. Déjà. Celui.
Il y a Poutou.
Celui.
On peut pas dire.
Celui.
On peut pas
dire de nom. Avec lequel je me trouve de plus point commun d'un point de vue de la personnalité, c'est celui avec qui je matcherai le moins.
C'est dingue,
ceux qui sont dans les potentiels pour qui je pourrais avoir une attraction politique sont dans le ventre mou ou enfin. Alors qu'est-ce que vous recherchez ? C'est plus la connexion humaine ou la connexion politique ? Parce que je m'y suis pas retrouvé dans la connexion politique.
Je m'autorise juste à la connexion humaine. La vraie réponse de psy, ce serait de dire « Et vous, Frédéric, qu'est-ce que vous en pensez ?»
Il y a une vraie réponse à cette question. C'est qu'on a parlé des cinq dimensions. Et donc, ce qui vous rapproche d'un candidat, c'est comment ces cinq fibres sont élevées ou pas dans votre relation.
À chaque fois, ça me mettait le même point positif, complémentarité.
Oui, parce que c'est des personnages qui sont très complémentaires. Parce qu'il faut qu'ils soient très différents. Parce que sinon, tout le monde irait. Mais en tout cas, la caractéristique, c'est que parfois, il y a une dimension qui s'appelle l'entente immédiate. Qui est le feeling, où on se dit « Ah, je le sens bien ». Et en fait, ça nous pollue dans notre représentation de la relation. Et ça, on le voit dans les missions de recrutement, où il y a des managers qui recrutent des gens et qui, au bout de 6 mois, se rendent compte que c'est pas bon. En fait.
Robert Zuilly, on n'a plus de temps pour aller sur votre site. Donnez l'adresse pour faire le test.
Alors, matchtonprésident.fr, qui vous renverra sur workwelltogether.co, mais que vous alliez par l'un ou par l'autre, vous pourrez le faire et vous aurez... instantanément le résultat de votre matching avec les 12 candidats.
Avec le feeling, la compatibilité, la complémentarité, la connivence et l'entente. Vous reviendrez pour faire un matching des vraies voix parce que je pense qu'il y a quand même du boulot.
Il y a du boulot.
Les vraies voix, 18h29. On est très en retard dans quelques instants. Hausse record de la taxe foncière. Est-ce le prix à payer pour la suppression de la taxe d'habitation ? Vous êtes 63,3% à dire non. You're happy when I'm on my knees. One day is fine and next is black. So if you want me off your back.
Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David.
Taxe foncière, taxe immobilière, taxe professionnelle, taxe sur le personnel, taxe.
Ah, ça rappelle des souvenirs, inconnus.
Ah, les rap touristes,
pas que des souvenirs, hélas.
Ah, parce que la taxe d'habitation, elle va faire mal en 2020. La taxe foncière, pardon, elle va faire mal, elle va faire très mal en 2022 avec une année d'augmentation record. Pourquoi ? Parce que la règle a été changée. Les valeurs locatives cadastrales qui servent de base au calcul vont être revalorisées de 3,4% cette année, un record depuis 1989. Et depuis 2018, une nouvelle méthode s'applique. Et malheureusement, avec cette nouvelle méthode, les députés et sénateurs pouvaient voter chaque année un aménagement de l'augmentation des bases. Mais ils ne peuvent plus aujourd'hui. C'est quand même dommage. Alors je vais vous prendre un exemple, la ville de Strasbourg. Augmentation de 12,6% en 2022, après une augmentation de 5% l'an passé. Ça fait quand même beaucoup, d'où notre grand débat. Hausse record de la taxe foncière, est-ce le prix à payer pour la suppression de la taxe d'habitation ? Avec nous, le maire d'un village de 1000 âmes, dans les Hautes-Pyrénées, dans la Vallée Toye.
Pas mille ânes, tu comprends?
Non, ça, ce n'est pas le cas, les Toye ne sont pas des ânes. Bonsoir Laurent Grand-Simon, maire de Lucin-Sauveur.
Bonsoir Philippe.
Alors, finalement, vous les maires, est-ce que vous n'avez pas le couteau sous la gorge entre la suppression de la taxe d'habitation et la baisse de ce qu'on appelle la dotation globale de fonctionnement, c'est-à-dire les aides de l'État aux communes?
C'est ce que je voulais dire. En fait, les budgets communaux, ils ont été, c'est une lente asphyxie de nos budgets communaux avec la baisse de la DGF sur plusieurs années. Alors, c'est pour ça qu'on ne peut pas répertorier la taxe foncière directement. On va avoir une augmentation de la base des taxes foncières, donc une augmentation des recettes dans nos communes, mais ça compense juste la baisse de la DGF. Je vous donne un exemple, Philippe. Pour la commune de Luce, la DGF est passée de 500 000 euros en 2015 à 245 000 euros en 2019. Une perte de 250 000 euros, moins 50% en 5 ans, c'est très difficile à gérer au budget communal.
Philippe Biliger.
Mon cher animateur, est-ce que j'aurai le droit de poursuivre le sujet précédent qui me passionne beaucoup plus?
Non, vous n'avez plus le droit de parler de psychologie.
Je n'ai plus le droit. En dépit de la qualité de notre invité, monsieur le maire, je plaisantais, hein, bien sûr, mais c'est vrai que je n'ai pas de lumière précise sur le sujet très important qui nous est proposé. Je crois que, comme tous les auditeurs de Sud Radio, je vais dire oui. L'augmentation de la taxe foncière sera destinée probablement à compenser la perte de la taxe d'habitation. Est-ce que je n'ai pas dit de bêtises, Philippe, là, dans ce domaine?
Ah ben, c'est à Laurent Grand-Simon qu'il faut répondre, c'est qui doit répondre, c'est lui qui est maire, c'est pas moi aux dernières nouvelles.
Non, mais comme vous savez tout,
Laurent Grand-Simon.
On est relativement bien compensé pour la taxe d'habitation, mais en fait, on a les communes, en particulier dans les grandes communes, on doit le prix qui monte pour la DSP, les délégations de services publics, et on a des prestataires qui vraiment font des prix qui vont peut-être plus haut que, par exemple, la gestion de l'eau ou de l'assainissement avec des prestataires privés. Les communes se retrouvent avec des factures imposantes, et donc c'est pour ça qu'on est obligé de trouver des recettes quelque part.
Françoise Degoy.
Moi, je suis frappée par ce qui se passe, si vous voulez, au niveau des communes plus largement, au niveau de la baisse du fonctionnement des communes. Ça n'a pas commencé avec Emmanuel Macron, c'était une majorité que je soutenais, je travaillais même dans ce gouvernement, celui de François Hollande, et ça commençait déjà à tailler sévère dans les budgets.
Dans la DGF, oui.
Et je trouve que quand je vois, Laurent Grand-Simon, je suis d'Argelès-Gazote, mais j'aime beaucoup les Toye, hein, voyez ce que je veux dire. Mais je le dis, je suis quand même du Lavedan, donc on n'est pas pareil quand même tous les deux, je dis ça, je dis rien, mais bon, les Valéens étant supérieurs aux Montagnards.
C'est pas un débat sur le communautarisme, ne vous inquiétez pas.
Non, les blagues à part.
On aimerait comprendre, François.
C'est un clin d'œil. Je vois tout à fait ces communes, 1000 habitants, 2000, 3000 habitants, je vois bien la difficulté de s'être fait dépecer comme ça par l'État, parce que c'est ça dont il s'agit, et c'est quelque chose, moi, qui m'inquiète. Alors, je ne sais pas si on compense la fin de la taxe d'habitation et la taxe foncière, j'en sais rien, tout ça, c'est des alchimies berciennes qui m'échappent. De toute façon, à un moment donné, vous savez comment on fait Bercy, hein, c'était une blague qu'on avait quand on était dans les ministères. Ils prennent et après ils coupent au ciseau, ils raclent tous les fonds de tiroir pour faire des économies. Donc, en tout cas, ce qui est certain, c'est que un des grands chantiers pour moi serait de redoter véritablement les communes de budgets signifiants pour leur permettre d'agir vraiment au plus près des citoyens. Et ça, pour moi, c'est un combat majeur et qui n'est dans aucun programme de aucun candidat, je dois quand même le dire.
Exactement, on en a parlé quand on a fait notre débat sur la ruralité, mais en fait, pour vous donner une image, c'est comme un énorme noeud coulant qui nous asphyxie petit à petit avec des baisses de 6, et c'est tellement complexe avec le fonds de péréquation intercommunal, il y a le FPIC aussi, c'est tous ces chiffres qui font que petit à petit, les communes perdent des moyens. Et en contrepartie, on a aussi l'État qui vient baisser ses moyens sur les territoires, c'est pour ça que je parlais un peu de ruralité, avec, on ferme des trésoreries, on ferme des gendarmeries,
des
on ferme
de des classes d'école. Je suis sidéré de voir le nombre de bureaux de poste maintenant où ce sont les cafés qui se substituent. Oui. Les bars tabac et les supérettes, exactement, au bureau de poste. Nous, on est des Pyrénées, on le voit bien, hein, c'est des zones rurales en plus,
mais
de montagne.
Partout, hein, c'est la même chose dans le Hauts-de-France, etc.
Bien sûr. Et je trouve que ça, c'est un sujet vraiment de la cohésion républicaine, et c'est gravissime pour moi.
C'est des salaires qui disparaissent sur le terrain, c'est des familles qui s'en vont.
Ah oui, c'est vrai, en plus, oui. Vous avez raison.
Jean Dorido.
Non, mais alors, sur la taxe foncière, d'abord, alors bien que Françoise de Goix étant présente, pour une fois, c'est moi qui vais faire le gauchiste de service dans cette émission, parce que je rappelle quand même que c'est une taxe qui est payée seulement par les propriétaires, donc il y a quand même beaucoup de locataires en France, et bon, bah, ces gens-là ne sont pas concernés, ils sont concernés en revanche par la baisse de la taxe d'habitation, donc bon, après, ça, c'est les calculs, effectivement, de Bercy. Maintenant, voilà, sur le budget des communes qui, effectivement, manquent de plus en plus cruellement d'argent. J'aimerais avoir l'avis de monsieur le maire sur l'avenir de ces communes rurales. On sait que la France, c'est un désert de plus en plus. On a 80% de la population française qui vit dans des grandes métropoles. On a des villages comme ça qui disparaissent. Effectivement, une absence de plus en plus crasse des services publics, les bureaux de poste qui ferment, même le ramassage des ordures qui ferment. Il faut prendre sa bagnole. On voit le prix de l'essence. Il y a combien de patelins en France, et je le dis avec un profond respect, dans lesquels il faut prendre sa caisse pour aller mettre sa poubelle dans le seul endroit voilà, où il y a encore une collecte des ordures. Voilà. Et donc, j'aimerais, vous qui êtes maire d'un village de 1000 habitants, j'aimerais avoir votre vision de l'avenir. Comment on sait qu'on est de plus en plus dans un monde libéral, tout est externalisé, le courrier, ça va être ouvert à libre concurrence, le train, c'est pareil, il n'y a plus de services publics dans ce pays, il y a même de moins en moins d'argent, on n'a plus d'argent pour l'hôpital, on n'a plus d'argent pour rien. Et donc, comment vous voyez l'avenir, si possible optimiste malgré tout, pour des communes comme ça, avec peu d'habitants, monsieur le maire ?
Laurent Grand-Simon, alors c'est quand même extraordinaire, parce que pour une fois, je vous donne la parole, Jean Dorido est plus à gauche que Françoise de Goix. On avait un deuxième psy dans le studio, je vais lui demander de revenir pour vous faire une consultation. Laurent Grand-Simon.
Mais justement, je voulais revenir sur la proposition de départ de qui paie la taxe foncière. C'est pas si simple que ça, parce que dans nos communes, ce sont les retraités qui sont propriétaires de leur pavillon. Ils ont des petites retraites et ils payent la taxe foncière. Ouais. Et donc c'est aussi un impôt qui touche vraiment les gens qui sont les plus modestes.
Pardon de le rappeler, monsieur le maire, ils sont propriétaires quand même. Pardon, on peut être modeste locataire et modeste propriétaire. Ouais, c'est mieux d'être modeste propriétaire.
Neymar est locataire depuis 40 ans parce qu'ils ont économisé. Tout sur leurs empreintes pendant 40 ans et la valeur de leur propriété maintenant.
Il ne vous aura pas échappé, monsieur le maire, que le pouvoir d'achat baisse de plus en plus et qu'on a aujourd'hui une génération de jeunes qui sont encore plus défavorisés que leurs parents et leurs grands-parents. C'est un fait.
C'est vrai. Laurent Grand-Simon.
Mais pour revenir à l'objectif et l'optimisme et un petit peu de prospective, ce qu'on fait, nous, on a la chance d'être une destination touristique, donc on investit dans nos établissements thermaux pour générer des recettes locales. Il faut vraiment redynamiser l'économie locale pour faire de la plus-value économique sur nos territoires. On n'a pas le choix. Et c'est comme ça, et c'est ce qu'on fait dans nos communes. Je voulais revenir sur la taxe foncière. J'en profite parce qu'on a un conseil municipal ce lundi 11 avril après le premier tour, et le conseil municipal de Luz va voter pour une baisse du taux communal de la taxe foncière. Alors c'est pas grand chose, ça compense un petit peu, ça veut dire qu'on va passer de 33,6% à 33,11%. C'est un taux qui est très haut pour la commune de Luz, mais petit à petit, d'année en année, on essaie de le diminuer pour que justement l'augmentation des bases soit moins douloureuse. Alors, c'est pas glorieux, hein, l'impôt payé au final sera quand même plus élevé que l'année dernière.
Les vraies voix, 18h42, hausse record de la taxe foncière, est-ce le prix à payer pour la suppression de la taxe d'habitation ? Vous êtes 63,2% à dire non. On se retrouve tout de suite pour continuer le débat.
Les vraies voix Sud Radio, 17h20, Philippe David.
Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Françoise de Goix, Jean Dorido, notre grand débat, hausse record de la taxe foncière. Est-ce le prix à payer pour la suppression de la taxe d'habitation ? Vous êtes 62,9% à dire non. Vous voulez réagir, le 0826-300-300 avec nous, Laurent Grand-Simon, maire de Luz-Saint-Sauveur, village de 1000 habitants dans les Hautes-Pyrénées. Justement, comme dans tous les départements de France, Laurent Grand-Simon, vous avez des parlementaires, des députés, des sénateurs. La règle a changé, c'est donc a priori le Parlement qui a voté ça. Qu'est-ce qu'ils vous disent, vos parlementaires, vos députés, vos sénateurs ?
Ah, les élus de Haute-Pyrénées, en tout cas, n'étaient pas pour, parce que ils préféraient avoir une vision globale de ce que l'impact de la taxe foncière, de toutes les taxes qu'ils votent, et de toutes les bases. Et donc, ce débat n'est plus présent à l'Assemblée nationale. C'est un souci pour eux, et c'est quelque chose qui n'était pas préparé.
Alors, justement, ça va augmenter un peu partout chez vous. Alors, à Strasbourg, c'est quand même le record. 12% après 5%. Vous connaissez tous les maires des villages autour de vous, bien évidemment, et du vôtre. Ils vous disent quoi ? Moi, ça va augmenter de 4%, de 5%, de 8%. C'est plutôt sur quel trend ? Sur quelle tendance, pardon ?
On a des taux qui vont augmenter d'entre 7 ou 8% sur la base des Hautes-Pyrénées, mais c'est chacun a des bases foncières qui sont calculées en fonction de leur commune. Après, on vote nos taux communaux, et pour l'instant, on sait qu'on va avoir des recettes complémentaires pour l'année 2022.
Jean Dorido.
Oui, non, je reviens sur les visions d'avenir optimistes. Je vous entends dire, monsieur le maire, que vous développez, si j'ai bien compris, les recettes locales, notamment à travers le tourisme. Une question un peu naïve, parce que la France se désindustrialise. On n'arrête pas de répéter, notamment depuis la pandémie, qu'il faut qu'on recommence à fabriquer quand même de façon locale, et des masques, et des médicaments, et tout ce qu'on veut. Et je sais que c'est un vrai métier à temps plein dans ce pays de réussir à récupérer de temps en temps des subventions de l'État, précisément. Et est-ce qu'une commune comme la vôtre ne peut pas... je ne sais pas s'il y avait des usines fut un temps. Je ne sais pas ce qu'on fabriquait dans les Pyrénées. Je n'ai pas la culture de Philippe David et François
de Gouin. Il y avait notamment de la chimie, pas très loin de
Alors, typiquement, voilà, est-ce que...
dans la vallée, chimie, et puis armement à Tarbes, et la COFAS à Pierre-Finestre.
Quid des possibilités, peut-être, malgré tout, parce que je pense aux locaux, et on voit à quel point c'est compliqué quand il n'y a plus que le tourisme, parce que c'est saisonnier, et c'est quand même... On a besoin d'avoir un job souvent à temps plein et d'avoir des revenus toute l'année, et quid des possibilités de peut-être refaire des petits sites de production pour quand même, pourquoi pas, attirer des jeunes couples et faire qu'il y ait du job autre que le tourisme.
Laurent Grand-Simon, et on part au 0826 300 300.
On est plutôt sur des petites entreprises, parce que dans nos sites industriels, maintenant, c'est un problème de désenclavement. On est un petit peu loin des grands centres routiers, des grands centres ferroviaires. Ouais. Et quand l'arsenal de Tarbes a été créé, c'était pour être le plus loin possible de la frontière allemande.
Bien sûr.
Mais maintenant, et la chimie, c'est quelque chose qui n'est plus envisageable dans notre département plus. Et donc, on se rabat surtout plutôt sur les petites entreprises, les petites. On a, par exemple, dans notre vallée, un fabricant, le seul fabricant français de parapentes.
C'est vrai.
Ah, très bon.
Oui.
Ah, bah voilà.
Bien sûr. Mais
François de Gouin, très court, parce qu'on attend 0826 300 300.
Alors, Laurent, une question. Alors, évidemment, l'économie des Hautes-Pyrénées, qui est notre pays, et surtout cette vallée, repose essentiellement sur l'économie blanche, c'est-à-dire la neige. La question est, est-ce qu'il ne faut pas la modifier cette année ? Ça a été une année exceptionnelle, ça l'est très souvent à Cotteray, mais ça a été exceptionnel pour l'ensemble des stations pyrénéennes. Est-ce qu'il n'y a pas une limite à cette économie ? Comment vous réfléchissez pour la transformer ?
Laurent Grand-Simon, très court, parce qu'on part au 0826 300 300.
On est à Cotteray, à Luce-Saint-Sauveur, on est déjà dans les quatre saisons depuis longtemps, depuis que les cures ont démarré. Et même notre chiffre d'affaires, quand on prend les socioprofessionnels de la vallée, font plus de chiffre d'affaires l'été que l'hiver. On fait 60% de notre chiffre d'affaires l'été que l'hiver. Donc on a besoin de l'hiver pour justement maintenir les populations, les familles, les salaires l'hiver, mais on est bien conscient qu'il faut redévelopper l'été.
On est dans le 65, on part dans le 66. Bonsoir Mohamed de Perpignan.
Bonsoir à vous, aux auditeurs, à vos invités. Oui, je trouve que cette taxe foncière est injuste. Quand vous voyez les gens, ils ont trimé toute leur vie pour construire une maison, et puis ils arrivent à la retraite, ils ont des faibles retraites, ils ont du mal à entretenir leur maison, et on leur fait payer une partie repose sur eux. Je trouve que c'est logique. Je crois qu'il y avait taxe à payer, c'est tout le monde. Je vois pas pourquoi les locataires ne payeraient pas leur part. Et je trouve que c'est un petit peu dommage qu'on ait supprimé la taxe
d'habitation.
Je crois que ça veut dire qu'on fait payer une partie des gens qui ont trimé toute leur vie. Souvent, ils ont, c'est le week-end, c'est le soir, ils arrivent, ils ont une maison, elle a 30 ans, 40 ans, donc il faut l'entretenir. Et là, ils sont pénalisés deux fois. Leur maison leur coûte plus qu'un loyer. Et c'est dommage, je trouve que... Ouais.
Bah, vrai sujet, vraie remarque. Merci beaucoup, Mohamed de Perpignan. Laurent Grand-Simon, moi, je suis assez d'accord avec Mohamed, parce que les locataires, il faut bien leur ramasser les ordures, dont parlait notre ami Jean Dorido, etc. C'est quand même anormal que les propriétaires, c'est un peu les dindons de la farce.
Oui, en particulier s'ils sont résidents dans leur propriété. C'est-à-dire que quand la propriété est la résidence principale, ça devient injuste. Après, il y a aussi des propriétaires de résidences secondaires il faudrait peut-être des taux de taxes foncières à différents pour taxes résidence principale ou résidence secondaire.
Merci beaucoup Laurent Grand-Simon, maire de Lucin-Sauveur. Verdict sur Twitter. Hausse record de la taxe foncière, est-ce le prix à payer pour la suppression de la taxe d'habitation? Vous êtes 62,6% à dire non. Est-ce que vous aimez les tripes, les vrais voix?
Voilà. À la mode de Caen,
ah, c'est moi bon, j'adore les tripes. Vous aussi,
François de Gaulle. Très dur à faire.
Pas du tout. Il
faut enlever le rôdeur.
Non, permettez-moi de vous dire que là...
Écoutez ce que dit Philippe.
Qu'est-ce que vous a dit Philippe Bilger?
C'est dégueulasse au niveau des odeurs.
Non, j'ai dit, moi j'ai mangé de merveilleuses tripes. Pas quand j'étais au collège à Montargis, mais j'ai connu une femme qui les faisait à la perfection.
Vous avez connu une femme, c'était une Polonaise.
Durant 4 jours, Françoise, vous auriez adoré les tripes.
Bon. Ouais, c'est comme les rognons, vous avez raison. Il faut
parce que mon cher Frédéric Brindel, on va parler tripes maintenant.
Oui, parce que j'en ai et je n'en manque pas. Les produits tripiers, plus précisément. Alors, vous savez ce que sont les produits tripiers? Je pose la question.
Ah bah les abats, ouais. Les
abats. Bah, en fait, gros, ouais. Alors, la définition, tous les
rognons,
morceaux...
Rognons, riz de veau.
Alors, oui, exact, Philippe. Donc, ce sont tous les morceaux de l'animal non rattachés à la carcasse.
Voilà. Le cœur, les poumons, tout ça.
Voilà. Nous accueillons Serge Nadeau, président de la Confédération nationale des tripiers de France. Bonjour.
Bonjour, Serge Nadeau.
Bonjour à tous.
Bon, on est venu vous demander votre éclairage, parce que demain, à Rungis, les Halles de Rungis, tout le monde connaît, c'est oui. Là que nos maraîchers, nos bouchers vont s'alimenter. Deux gros événements, lancement de la galerie photo qui évoque la 5e édition du championnat d'Europe qui seront organisés à Rungis au mois d'octobre prochain, championnat d'Europe des produits tripiers, ça existe.
Oui.
Et puis également, 6 restaurateurs vont créer des animations demain et entre 6h et 9h, tous nos spécialistes vont découvrir ce qu'on peut faire avec des tripes. Pourquoi tant de manifestations autour des tripes, Serge Nadeau?
Eh bien, écoutez, demain, on se fait une joie d'organiser une journée pour lancer l'inscription au championnat d'Europe des produits tripiers 2022. Et ce, avec une manifestation sous notre pavillon, sous le pavillon des produits tripiers, où nous allons accueillir 6 restaurateurs de Rungis qui vont nous faire leurs meilleures recettes et nous présenter leurs meilleures recettes de produits tripiers pour lancer cette campagne du championnat d'Europe 2022.
Alors, on a parlé des tripes à la mode de Caen, mais il n'y a pas que ça. Finalement, on s'aperçoit que ces produits tripiers sont très souvent utilisés par les grands cuisiniers.
Tout à fait, les produits tripiers font partie des références de la gastronomie française, avec des produits très nobles comme le riz de veau, des produits plus populaires tels que la tête de veau ou la langue de bœuf.
Ah, la tête de veau.
Ah, la tête de veau. Bon, notre cher Jean Dorido veut réagir.
Oui, non, j'avais une question pour Serge Nadeau.
Il a les yeux
qui
frétillent.
Ah, bah, c'est vrai que c'est
alors,
bon.
Alors, Serge Nadeau vous écoute. Allez-y, Jean.
J'ai une question pour vous, parce que vous lancez le championnat d'Europe des produits tripiers. Alors, j'ai le sentiment, moi, je viens de Lyon, hein, donc c'est vrai que j'ai été élevé
à l'andouillette.
À l'andouillette, entre autres, et au tablier de sapeur, et au pied de pampané, et à la tête de veau. Et j'ai le sentiment qu'on mange moins d'abats qu'avant en France. Et je me demandais, en Europe, quels sont les pays, je dirais, champions de la consommation de produits tripiers?
Pour répondre à votre question, on consomme un petit peu moins de produits tripiers en France. On les consomme énormément au restaurant, de plus en plus au restaurant.
Ah oui.
C'est pour ça que nous lançons cette 5e édition des championnats d'Europe. Après, c'est vrai que d'autres pays en Europe consomment les produits tripiers, tels que l'Espagne, l'Italie,
voilà,
qui sont des gros consommateurs.
Ouais, tout le monde pensait que pour les abats, ça serait la Suède, évidemment. Hein, il a réfléchi. J'ai une dernière question. J'ai une dernière question pour Serge.
Frédéric, vous auriez pu parler pour Philippe David des tripiers de Mbappé. Hein,
oui.
Les tripiers de Mbappé, elle est excellente, celle-là.
Pardon, cher Serge Nadeau, mais voici donc enfin une question sérieuse. J'ai l'impression aussi que ces histoires de tripes, quand on vous en propose, on dit d'abord non. Donc il y aurait toute une campagne de communication pour dire goûter. Parce qu'une fois qu'on a goûté, et moi c'est mon cas, on adore. Mais ça fait peur. Donc il faut les faire aimer, c'est ça le but du jeu.
Il faut les faire aimer, il faut les faire découvrir. C'est le but de toute notre communication. Ce championnat d'Europe est ouvert à tous les chefs européens. Les inscriptions commencent le 2 mai sur le site cntf@orange.fr avec une demi-finale le 17 octobre et une finale le 22 novembre à Rungis, sur le marché de Rungis. Et on y compte une cinquantaine, une soixantaine de chefs l'année dernière et on aimerait l'ouvrir à beaucoup, beaucoup plus de chefs, des blogueurs, des particuliers, pour sublimer nos produits s'orienter sur des innovations promises très passionnantes.
Serge Nadeau va faire un sondage vraie voix sur les produits tripiers. Notre directeur d'antenne, Bruno Dubois, m'envoie un texto avec des pieds paquets, une envie de pieds paquets. Bon, quels sont vos produits tripiers préférés?
Vous savez que ça sera une consultation, hein, oui, puisque ça n'a pas valeur de sondage.
Mais qu'est-ce que vous préférez, c'est pas un sondage, qu'est-ce que vous préférez comme produit tripier, tiens, Françoise Degoy?
Moi, si les riz de veau sont dedans, est-ce que les rognons de veau sauce madère sont dedans?
Aussi.
Eh bien, les rognons de veau sauce madère.
Philippe Bilger.
Rognon et tête de veau.
Fred Brindel.
Les tripes à la mode de Caen.
Je prends tout ce qui a été dit jusqu'à maintenant. Et alors, du coup, pour rajouter un morceau, une bonne tranche de foie de veau.
Ah oui.
Voilà, sauce framboise, vinaigre de framboise.
Vinaigre de framboise avec de l'ail. Ah, avec des carottes.
Et vous, Philippe David. Moi,
surtout que c'est très bon pour l'intelligence, la foie de veau.
À moi, tout. Absolument tout. Philippe David. La cervelle, le cœur, le foie, l'andouillette, absolument tout.
Et la tête, alouette.
Merci beaucoup, Serge Nadeau. Ça se passe demain à Rungis, c'est ça?
Merci à vous, et demain matin, à partir de 6h. Merci à vous, et bravo pour votre passion pour les produits tripiers et votre bon goût.
Bah vous savez, les vraies voix, ça parle avec le cœur et ça parle avec les tripes. Hein. C'est quand même de notoriété publique.
On lui laisse, allez, ça va, c'est bon.
C'est bien, c'est
merci
bien.
Beaucoup, ouais, ça va.
Encouragement du jury, quoi, tu vois.
Ouais. Ça vaut pas Abba et la Suède.
Non, mais voilà, je suis sûr que t'es battu par Brindel. Hein,
Abba et la Suède,
c'est la grande classe.
Merci beaucoup à tous les trois. Dans quelques instants, nos deux vraies voix du jour, Didier de Martigues et Vincent de Lérault, qui veulent parler, ben faut-il aggraver les sanctions contre la Russie? On se retrouve tout de suite.
Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David.
Frédéric Brindel est avec nous, vous allez le retrouver pour les vraies voix de la politique et nos deux vraies voix du soir. Direction les Bouches-du-Rhône, bonsoir Didier de Martigues.
Et bonsoir Sud Radio, bonsoir l'équipe, bonsoir à tous les auditeurs.
Et bonsoir, Vincent Didier. De Lérault, deux départements qui bordent la mer Méditerranée, bonsoir Vincent.
Bonsoir à toute l'équipe, bonsoir aux auditeurs.
Et vous voulez parler les deux du sujet de notre premier débat, guerre en Ukraine, faut-il aller plus loin dans les sanctions? Allez, Martigues, c'est le 13, Lérault, c'est le 34, on commence avec Didier. Vous voyez, on a un mode de partage qui est quand même assez simple pour commencer.
Oui, et en plus on est voisins, donc Lérault, c'est pas bon. Non, mais que par rapport à l'Ukraine, la question que je peux se poser, c'est est-ce que les sanctions économiques ont un effet dévastateur sur la Russie? Parce que ça a un effet aussi bien sur du court terme que sur du long terme. Sur le recul de la Russie face à l'Ukraine, moi personnellement, je ne le pense pas. Et je me demande d'ailleurs quelles sortes de sanctions économiques peuvent-ils encore faire, nos chers dirigeants, pour affaiblir la Russie. Donc moi, je pense que non, de mon point de vue, les sanctions n'ont aucun effet.
Vincent, qu'est-ce que vous en pensez? Pour vous, vous êtes d'accord avec Didier que les sanctions n'ont aucun effet? Ce que les faits ont plutôt tendance à prouver. Hein.
Mais oui, non, mais je suis tout à fait d'accord avec lui, mais le pire de ça, c'est que c'est nous, c'est la France qui sanctionne la Russie et toute l'Europe, mais par contre, c'est nous qui morflons. On paye les sanctions plus chères, on paye le gaz plus cher, la farine plus chère, les pâtes, tout. Donc, qui sait qui a vraiment les sanctions sur lui, quoi? Est-ce que c'est la Russie ou est-ce que c'est la France? Je pense que c'est une mauvaise stratégie, quoi.
Mais justement, Frédéric Brindel, ce que disent tant Didier que Vincent, c'est intéressant parce qu'on a sanctionné la Russie en arrêtant de leur vendre des sacs Gucci et Vuitton. Je prends ça comme un exemple. On aurait pu citer d'autres produits de luxe. Par contre, on continue toujours, parce que c'est l'Allemagne qui le demande, même si la ministre de la Défense a dit que ce serait bien d'arrêter d'importer du gaz, on leur importe toujours 800 millions d'euros de gaz par jour. Le gaz, c'est moins stratégique que les sacs Vuitton ou les carrés Hermès?
Ça me rappelle un des sujets que nous vous avions proposé dans Les Vraies Voix la semaine dernière. La question, c'était les entreprises françaises doivent-elles quitter le marché russe? Et très très vite, on est arrivé au constat de « ben oui, mais si une entreprise quitte, elle perd de l'argent, donc finalement c'est se sanctionner soi-même », donc c'est ce que disait Vincent. Et l'autre point est ce qu'évoquait Didier, c'est-à-dire que soit on y va franchement et on dit on appauvrit tout le pays, et avec des conséquences humaines terribles, parce que nos vraies voix avaient dit « bah oui, mais seulement si les entreprises s'en vont, on a tout un tas de Russes qui vont perdre leur travail et qui vont se retrouver alors qu'ils n'y sont pour rien ».
Absolument.
Alors que la cause est au pouvoir russe, en l'occurrence Vladimir Poutine. Mais le calcul de la sanction, c'est de se dire j'appauvris le pays pour que le pays se révolte et destitue son chef. Mais ça, ça prend du temps. Donc je crois qu'effectivement, on arrive à une situation où c'est le serpent qui se mord la queue ou l'œuf avant la poule, enfin ce que vous voulez. Quoi.
Qu'est-ce que vous pensez de ce que vient de dire Frédéric Brindel, Didier ? Moi, je suis assez d'accord.
Ben, moi, j'ai l'impression aussi que nos dirigeants, ils prennent des décisions sur du court-moyen terme, mais ils voient pas le long terme et l'effet boomerang que cela peut avoir sur la France, sur notre économie, sur notre pouvoir d'achat. Et j'ai l'impression aussi que le fait de vouloir sanctionner économiquement la Russie dans le but que le peuple se révolte pour faire tomber l'État russe, avec les médias, les méga propagandistes qu'ils ont, la puissance qu'ils ont en termes médiatiques pour retourner la pensée, le cerveau de leurs concitoyens, moi je pense que c'est un échec sur du long terme.
Et oui, de plus, ça prendra beaucoup de temps, en tout cas beaucoup trop de temps.
Oui, c'est pas les médias les plus libres du monde, les médias russes, ça c'est une évidence.
L'Ukraine morfle.
Voilà, c'est ça.
Vincent, vous êtes d'accord avec Frédéric Brindel que finalement on se tire une balle dans le pied ?
Ah mais on se tire plus qu'une balle dans le pied, je pense qu'on se tire tout le chargeur dans les deux pieds.
Oui, ah non, mais c'est
impressionnant. Mais de toute façon, on avait eu, souvenez-vous, sous François Hollande, la Russie nous avait commandé un bateau, un porte-hélicoptère, je crois que c'était...
Deux ou trois, c'était les Mistral.
Deux ou trois, voilà. Et les Américains nous ont dit non, vous leur vendez pas parce qu'il faut faire des sanctions. Les Russes nous l'avaient payé, donc il a fallu les rembourser. Plus les pénalités, en plus. Et on les a vendus pour un prix de misère, je ne sais plus quel pays.
Alors je vous explique, on les a bien vendus à l'Égypte, mais c'est pas l'Égypte qui a payé, c'est l'Arabie Saoudite. Alors faut dire que, excusez-moi, l'Égypte, c'est entre la mer Rouge et la Méditerranée. Le pont qui était prévu pour le dégivrage dans l'océan Arctique, c'est vrai que c'était une option qui n'était pas fondamentale pour les Égyptiens, soit dit en passant.
Ni pour les Arabes, j'ai pas eu ça.
Oui, pour les pays arabes, vu la température là-bas, les ponts anti-givre, ça ne servait pas à grand-chose. Pour la Russie sur l'Arctique, c'est plus utile, on est d'accord.
En fait, je pense que c'est les Américains qui tirent les ficelles dans tout ça, et c'est nous qu'on est les dindons de la farce.
Ouais, c'est parti d'eux.
Comme d'habitude, quoi.
Mais alors,
c'est eux qui veulent des sanctions, qui poussent l'Europe, les pays européens à faire des sanctions, mais après, c'est eux qui veulent nous vendre du gaz, c'est eux qui veulent nous vendre du pétrole, c'est... On va avoir du pétrole du Yémen, là où ils se font massacrer aussi, donc c'est pas l'Europe, il y a l'habitude de se battre entre eux, on va dire. Non, mais c'est dégueulasse, je pense que c'est comme ça, mais... C'est n'importe quoi. Je pense qu'il faut se rapprocher de la Russie, au contraire.
Mais alors, la Russie, c'est l'agresseur sur l'Ukraine. Mais par contre,
sur l'Ukraine, oui. Non, mais économiquement.
Non, mais il y a quand même une question qui se pose. Est-ce qu'il n'y a pas quand même une indignation à géométrie variable ? L'Arabie Saoudite bombarde les populations civiles au Yémen depuis des mois, y compris avec des armes qu'on leur livre nous, soit dit en passant, hein, même si c'est l'Arabie Saoudite leur premier client, leur premier fournisseur, pardon, en termes de matériel militaire, c'est les USA. Personne ne parle jamais de faire des sanctions contre l'Arabie Saoudite, qui n'est pas le pays le plus libéral qui est, puisque c'est lui qui a formé idéologiquement les talibans dans les madrasas pakistanaises en particulier, et que c'est un pays qui a décapité, je crois, 85 personnes il y a une dizaine de jours, qui considère les femmes comme des sous-êtres humains qui n'ont même pas le droit de sortir du pays quand elles ne sont pas accompagnées d'un homme, etc. Est-ce qu'il n'y a pas une indignation à géométrie variable quand même, Fred Brindel ?
Sans aller sur d'autres continents, parce qu'il y a des intérêts peut-être qui sont encore plus différents, mais regardons ce qu'il s'est passé. La dernière guerre en Europe, je suis désolé, tout le monde l'a oublié, mais c'est entre 1993 et 1999. Toute l'ex-Yougoslavie. Quand il a fallu destituer Milosevic, le dictateur à la tête de la Serbie une première fois pour la Bosnie, une seconde fois pour le Kosovo, les frappes de l'OTAN ont été terribles. Vous assurer que l'OTAN...
Vous connaissez très bien l'ex-Yougoslavie pour raison personnelle.
Tout à fait. J'ai de la famille en Serbie et je peux vous assurer que ça a été bombardé par l'OTAN. Et moi, dans ma belle famille, certains me disent vous nous avez bombardé, puisqu'à l'époque, c'était la France. Bon, et là... On pourrait aussi le faire sur les Russes. Sauf que la
Ils
réplique,
ont l'arme nucléaire.
Sauf que la réplique, c'est pas la même. Donc, quand j'entends Didier et Vincent me dire ce qu'ils disent là, on est tous d'accord finalement. C'est un, ces sanctions, ça montre que de toute façon, on est impuissant. Deux, si on veut vraiment y aller, alors faut leur taper dessus. Mais ça, c'est la guerre mondiale qui suit.
C'est
alors
ça.
Qu'est-ce qui reste ?
Et on a une armée qui est pas au niveau pour faire une guerre mondiale. On est bien d'accord. Nos unités combattantes tiennent dans le stade de France. Hein.
Voilà. Et alors, qu'est-ce qui reste ? Il reste une seule chose que tout le monde se dit quand on est autour d'un café entre amis, c'est qui c'est qui s'occupe de Poutine ? Hein, c'est tout le monde, tout le monde se pose la question. Voilà, il y a Joe Biden qui a commencé à parler comme nous, c'est-à-dire autour d'un café, mais un président des États-Unis ne peut pas le dire. Vous avez vu le tollé que ça a causé, puisque tout le travail diplomatique était annihilé en disant il faut renverser Poutine. Mais aujourd'hui, force est de constater que la solution la plus efficace, ça serait ça, mais que comment on le fait, qui peut le faire, ça, c'est mystère.
Vraie question, mais est-ce que vous ne croyez pas, vous avez parlé des Américains en disant que c'était les Européens qui allaient payer cher, est-ce que vous ne croyez pas que les Américains, là, ils sont un peu enquiquinés sur les bords avec les Russes qui demandent qu'on achète le gaz en rouble, puisque les matières premières au niveau mondial se payent en dollars, et que c'est ce qui permet au dollar d'être la monnaie mondiale, et que si maintenant les gens se mettent à acheter, les Européens se mettent à acheter le gaz en rouble, ça maintient la valeur du rouble. Je tiens à rappeler que jeudi dernier, suite à cette décision, le rouble a retrouvé son niveau d'avant l'agression russe contre l'Ukraine. Est-ce que vous ne croyez pas que les dommages collatéraux ne vont peut-être pas être que pour les Européens, Didier ?
Oui, c'est vrai ce que vous dites, je suis d'accord. Par contre, quand les gros maigrissent, les maigres meurent. Et les maigres, je ne pense pas que ce soit les États-Unis. Donc, c'est vrai que après les États-Unis, en termes d'énergie, de matières premières, ils n'ont pas que des accords avec la Russie, avec ces pays-là. Donc, moi, je pense quand même que ils ont quand même les reins solides et que même si ils vont avoir certes des répercussions, mais je pense pas quand même que sur du moyen terme, ça va les enquiquiner plus que ça. Par rapport à l'Europe, du moins.
Vincent, vous croyez pas qu'ils peuvent être aussi un peu dans les dommages collatéraux avec le paiement en rouble et plus en dollars ou en euros?
Disons que si.
Surtout en dollars pour eux.
Voilà, oui, non, mais disons que si l'Europe avait un peu plus, montré un peu plus les muscles, peut-être que la guerre, on l'arrêterait, il n'y aurait plus d'Ukrainiens qui mourraient en faisant des accords. Et par contre, oui, c'est vrai que les Américains, si on n'achète plus en rouble maintenant, ben, peut-être que ce ne serait pas plus mal depuis 1946 ou 1918, non, c'est le dollar qui...
45, c'est le dollar. Depuis 1944, le dollar, les accords de Bretton Woods.
D'accord, ben, peut-être que maintenant, il faudrait arrêter, quoi. La guerre, elle est finie depuis longtemps. Depuis la guerre de 40, les Allemands, ils ne sont plus antisémites, ils ne veulent plus tuer personne. Voilà, ça, c'est sûr que le marché, ça va faire tout drôle, quoi. Même à la France, on a beaucoup de dollars, on achète tout en dollars.
Et je vous arrête, l'Europe vend même ses Airbus en dollars, ce qui est quand même une aberration, sachant qu'on avait fait l'euro en disant que c'était pour renforcer l'économie européenne.
Mais moi, je suis anti-européen, quoi. Donc, ce que l'euro, c'est une invention des États-Unis, quand on voit tous les, enfin, à part Trump, mais tous les autres présidents américains qui étaient là, qui étaient contents que l'Europe se fasse.
On va faire réagir Fred Brindel. C'est vrai que là, si tout le monde se met à payer les monnaies plus, les matières premières plus seulement en dollars, ça va être un gros coup dur pour les Américains qui, au départ, les sanctions, c'était plutôt les Européens qui les prenaient en pleine face. Hein.
En fait, rappelons le principe, c'est que pour le gaz, Vladimir Poutine a exigé qu'il soit payé en rouble. Les Européens ont dit non, mais la manipulation s'est faite automatiquement, c'est-à-dire que les Européens payent les banques en euros, parce que c'est le contrat qui le veut, et après les banques en fait font la conversion. Donc encore une fois, ce sont les banques qui ont la main mise.
Absolument.
Voilà. Alors effectivement, là encore une fois, on se dit, on a beau faire telle ou telle chose, ça ne va pas avoir de prise directe sur Poutine. Il y a quand même une chose, et vous en avez parlé, Philippe, tout à l'heure avec les vraies voix, c'est que depuis que nous découvrons ces différents crimes de guerre, il a désormais une dette envers le monde, il sait que plus rien ne pourra se passer comme avant. Même si on arrive à des accords, même s'il y a une diplomatie, Poutine ne pourra plus diriger comme avant. Donc la fin, c'est comment Poutine assure sa sortie. Un, il paraît qu'il est malade. Est-ce qu'il se fait rakiri? Ça a été évoqué. Deux, il négocie sa sortie, il donne le pouvoir et on ne l'embête pas, ça peut. Trois, bien, il y a un moment où il tombe, et il tombe par la force, comme Ceausescu, comme tant d'autres.
Il nous reste même pas une minute. Est-ce que vous ne croyez pas que c'est quand même un peu dingue que l'Ukraine et la Russie sont en guerre, mais qu'une partie du gaz russe transite toujours par l'Ukraine pour venir en Europe, et que la Russie paye la redevance de transit à l'Ukraine? Très vite, en 20 secondes, Didier, en 20 secondes, Vincent.
Ben, disons que l'économie, c'est une chose, la guerre, c'en est une autre. Moi, je pense que effectivement, il y a des traités qui ont été faits, donc effectivement, ils sont respectés tout en étant en guerre. C'est vrai que c'est paradoxal, mais la Russie, effectivement, elle honore. Disons qu'elle continue de faire ce qu'elle faisait tout en étant en guerre contre l'Ukraine. C'est vrai que c'est
Vincent, c'est ambigu, vous êtes d'accord que c'est paradoxal? Très court.
Ah ben, c'est très paradoxal, très court. Par contre, Poutine a des crimes de guerre, il est malade, tout ce qu'on veut. On parlait tout à l'heure de la Serbie. Est-ce que quelqu'un de l'OTAN a été condamné pour crimes de guerre? On a bombardé le pays pendant plus de 70 jours quand même.
Vrai sujet. Merci beaucoup Didier de Martigues et Vincent Delerot. Maintenant, c'est avec vous ça se passe, mon cher Frédéric Brindel.
Les vraies voix de la politique, dans un instant, avec Jean-Christophe Gallienne. Et puis Gallien, hein.
Gallien, oui.
Oui, c'est mieux, oui, bien sûr. Et puis Frédéric Sinclair qui seront avec nous. Nous allons, il reste une semaine, évoquer avec nos deux spécialistes les 12 candidats, une semaine pour chacun des 12. Que peuvent-ils encore espérer?
Tout de suite, conseil de famille, Philippe Rossi, Stéphane Moller.